7h54 à Bukavu, mesdames, messieurs, bonjour et bon dimanche. Au menu de l'émission Paix et Développement de ce jour, focus spécial sur l'environnement. Le mois de mars que nous démarrons, ce dimanche est baptisé Mois vert à Bukavu en cette année 2026. Ce mois vert qui est une initiative visant à sensibiliser la population aux enjeux environnementaux et à promouvoir des pratiques durables. Une sensibilisation grandeur nature et qui prend tout un mois au vu des défis environnementaux qu'elle fait face à la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Celle-ci fait face à une insalubrité caractérisée par l'accumulation des déchets à plusieurs endroits, la pollution des eaux sur le lac Kivu et la rivière Ruzizi. Ces problèmes sont situés non seulement dans la ville de Bukavu, mais bien sur l'ensemble de la province avec d'autres défis dont notamment les érosions, éboulements des terres et inondations. Les dernières années, surtout dans le territoire de Calais et la ville et territoire d'Ouvira, ainsi que le territoire de Fizi. Pour surmonter ces défis, le mois vert est celui du rappel de la responsabilité de chacun pour une réponse collective cohérente. Nous en parlons avec plusieurs intervenants dans la première partie de l'émission et en second lieu, nous reviendrons sur les cessez-le-feu décrétés à partir du 18 février dernier à 12h et qui volent aujourd'hui en éclats. Les lignes de front sont en ébullition au sud Kivu, surtout en territoire de Calais et Fizi, et au nord Kivu principalement dans le territoire de Masisi. Des frappes signalées par-ci par-là font des dégâts. L'AFC AM-23 y a même perdu le 24 février dernier son porte-parole militaire, le colonel Willy Ngoma. Que signifie cette reprise avec haute intensité des hostilités? Nous répondrons à cette question au second chapitre de cette émission, mise en onde par Jean-Claude Ndagué devant ce micro pour la présentation expédie qui a lourd réalisation Thaïs Bagoula. Une fois de plus, à vous tous, chers auditeurs, bon dimanche et bienvenue. Merci à vous, chers auditeurs. Vous nous écoutez dans la ville de Bukavu sur 88.8. Vous nous suivez sur l'ensemble de la province du Sud Kivu dans les territoires, essentiellement sur 91.7. Vous avez la possibilité de nous suivre partout au monde entier en tapant le www.radiomandeleo.org. Merci infiniment pour votre sympathique attention et surtout, bon dimanche. Nous sommes dimanche 1er mars 2026. C'est donc le début d'un mois particulier, d'un mois spécial en cette année 2026. C'est donc le mois vert. Pour en parler, nous recevons Thomas Yenach, qui est chef de coopération internationale au bureau de la coopération suisse en République démocratique du Congo. Thomas, bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs.
Nous recevons dans ce studio le professeur Kacho Karume, qui est enseignant à la faculté d'agronomie à l'université évangélique en Afrique, UEA. Professeur Kacho, bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour Tailleur, SPD.
Merci beaucoup. Professeur Massilia Pascal Massilia, enseignant, chercheur à l'unité d'enseignement et de recherche en hydrobiologie appliquée au département de biologie chimie à l'Institut supérieur pédagogique ISP. Professeur Pascal, bonjour, bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les auditeurs.
Nous recevons dans ce studio également Adolphe Mugula, qui est chef de programme à l'OPDH RDC. Adolphe, bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mandela.
Excellent dimanche et welcome à Franck Moïse, qui est coordonnateur de Trois Tamis. Franck, bonjour, bienvenue.
Bonjour, et bonjour aussi à tous nos auditeurs et bonjour à tous ceux qui aiment la nature.
Voilà, nous recevons également, vous intervenez plus dans le domaine de la culture et tout le reste, mais vous êtes aussi intéressé par la nature, bien évidemment. Deora Sastoubaka, c'est un confrère journaliste, éditeur, responsable du média en ligne Terra Nova, bien évidemment ancien de Radio Mandela. De Horacias, bonjour et bienvenue.
Bonjour cher Expedi, bonjour aux invités au studio et bonjour aux milliers d'auditeurs de la Voix des Sans-Voix Radio Mandela.
Voilà, directeur Thomas Yenatz, vous êtes chef de coopération internationale. Le mois que nous démarrons aujourd'hui, c'est donc un mois qui porte une connotation et une identité particulière. C'est bien sûr le mois vert, le mois de mars en cette année 2026. Bukavu, qui jadis était appelé la Suisse d'Afrique, Bukavu verte. Mais aujourd'hui, la Suisse se décide de se ranger derrière une initiative visant à sensibiliser la population sur les enjeux environnementaux. Qu'est-ce qui fonde votre engagement derrière ce projet?
Donc, merci pour la parole. D'abord, c'était une expérience personnelle qui m'a poussé à réfléchir sur comment lancer quelque chose, un mois de sensibilisation. Après les premières pluies, quand je suis arrivé il y a une année et demie, j'ai remarqué chaque fois quand il pleut, le lac se remplit de bouteilles. Et donc j'étais choqué, la quantité de bouteilles en plastique qui sont dans le lac. Et moi, j'ai le privilège de loger près du lac. Et donc j'ai dit, bon, c'est pas possible. Comment on peut salir un lac si beau? Et donc, j'ai très vite aussi découvert que le défi de la gestion des déchets solides de la ville, finalement, tout termine dans le lac. Et donc, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Il faut commencer à conscientiser les gens. J'ai commencé à parler avec d'autres personnes. J'ai vu, il y a beaucoup de monde qui a des bonnes idées aussi pour faire face à cette situation, à cette crise de l'environnement. Donc j'ai dit d'abord on voulait faire une journée d'activité. On a dit mais une journée c'est pas suffisant, peut-être on fait une semaine. On a dit une semaine n'est pas suffisant, il faut faire un mois. Donc on a décidé de faire le mois vert. On a contacté les académiciens, les journalistes, les artistes et la société civile pour se mettre ensemble pour développer un concept d'activité, donc avec trois buts principalement. Donc le premier but, c'est de sensibiliser la population et les autorités des défis environnementaux. Donc deuxième but, c'est de renforcer les débats et les plaidoyers pour promouvoir une ville qui protège ses espaces verts et qui développe des systèmes pour gérer les déchets d'une manière plus aimable à l'environnement. Et troisième but, c'est mobiliser les citoyens pour des activités et journées d'action. Donc, l'idée, c'est pas seulement parler des défis, mais sinon aussi aller en action. Donc, dans ce mois vert, il y aura plusieurs activités, entre autres des cycles de conférences, mais aussi des journées d'action où on va planter des arbres avec des jeunes, des étudiants. On va aussi faire une foire d'innovation où on va présenter des bonnes idées pour gérer les déchets, des bonnes idées pour avancer dans la protection de l'environnement. Donc, il y a plusieurs activités, presque tous les jours il y a des activités. Et donc, on invite la citoyenneté de Bukavu de participer activement parce que finalement c'est une activité pour le bien-être de vous tous, pour toute la ville. Et donc, j'espère qu'on a, après ce mois vert, une ville qui au moins se mobilise vers une protection de l'environnement.
Et au terme de ces activités, certes, vous en avez évoqué juste les unes à titre d'échantillon. Vous vous attendez à quel résultat?
Bon, un mois, on ne peut pas changer la situation significativement, mais on peut impulser des changements d'habitude. Des changements d'habitude, d'abord des citoyens qui doivent aussi prendre conscience qu'il ne faut pas jeter les déchets, qu'il ne faut pas couper les arbres, mais aussi sensibiliser les autorités pour qu'ils commencent à planifier mieux, d'abord la planification urbaine, mais aussi la gestion des déchets. Donc on aimerait initier cette réflexion et on aimerait initier les premiers pas envers une ville plus verte, plus respectueuse avec l'environnement. Bon, ce sera un début, ce ne serait pas un fin. Donc, c'est le début pour quelque chose de plus grand qui va mener à des résultats dans le temps.
Les cibles sont bien identifiées, vous les avez évoquées, d'un côté la population, mais également de l'autre côté les décideurs. Mais quels sont les acteurs que vous associez pour la mise en œuvre justement de cette initiative Le Mois Vert?
Donc, d'abord, on a quatre groupes d'acteurs. On a un groupe des académiciens qui vont faire des conférences. Chaque semaine, il y a une conférence dans différents établissements universitaires de la ville. Donc, on vise les étudiants, parce que l'étudiant, c'est l'élite du demain. C'est eux qui vont construire le pourquoi vous du futur. Donc, il y a la société civile, des ONG, des groupes qui sont organisés pour faire des œuvres. Eux, ils peuvent mobiliser les jeunes aussi pour des journées d'action. On a les médias. Finalement, tout est rien sans une bonne communication. Donc, les médias comme Radio Mandaleo, comme d'autres radios, même la presse, même la télévision, ils font partie aussi de ce mois vert pour toucher la population plus ample, comme vous, chers auditeurs. Donc, et en plus, il y a les artistes, parce qu'on aimerait aussi passer les messages à travers l'art, à travers les chansons, à travers même l'humour, donc pour que ça resterait pas seulement un message technique, mais un message émotionnel, un message qui est compris et qui est porté par la citoyenneté.
Justement, pour ça, vous dites vous associez les scientifiques. C'est à cette occasion que nous les avons invités dans ce studio. Le professeur Kacho Karume, qui est de la faculté d'agronomie de l'Université évangélique en Afrique. Vous êtes professeur, un des animateurs du Fab Lab, une unité que personnellement j'ai déjà visitée, une unité qui combine les aspects du numérique, les déchets, mais également des dimensions économiques. Professeur, nous y avons fait allusion dans notre introduction et le directeur y a fait allusion, la ville de Bukavu. Donc, sur un simple constat, il a été remarqué que les bouteilles plastiques restent justement flottantes sur les eaux du lac Kivu, c'est-à-dire que les déchets pillulent la ville de Bukavu. Certes, les activités de masse, notamment les travaux communautaires, 10 salons sont organisés fréquemment, c'est pratiquement chaque samedi de 7h à 11h, mais la problématique demeure. C'est d'abord au niveau du stockage des CDC, mais également de leur transformation. Quel état des lieux faites-vous de la situation des déchets en milieu urbain, des déchets dans la ville de Bukavu?
Bon, quel état faire? Vous avez déjà tout dit. Nous avons une situation catastrophique, des déchets qui ne sont pas gérés correctement de façon générale. Et c'est à base de ce constat, comme vous venez de le dire, que nous avons fait des réflexions déjà il y a très longtemps. Et parmi les réflexions, on s'est posé la question comment gérer ces déchets de manière durable. Mais aussi, comme étant une unité de recherche, nous sommes allés au-delà, on s'est dit pourquoi il y a tous ces déchets. Certes, il y a une mauvaise gestion, mais tout commence d'abord par une mauvaise urbanisation. Voilà pourquoi nous avons fait des recherches sur des questions, en se posant la question, la ville de Bukavu en 2030, la ville de Bukavu en 2050, qu'est-ce que ça doit devenir? Les extensions possibles, les villes satellites. On a mis sur pied les Fab Labs que vous avez visités, comme vous venez de le dire. Et vous avez vu une série d'innovations qui impliquent les jeunes dans le numérique pour valoriser les déchets. Et d'abord, pour commencer par la première problématique, de les séparer. Parce que c'est la première problématique. Après collecte, il faut être capable de trier ces déchets. Mmh. Et vous avez vu la machine que... Il y a une innovatrice à l'IEA qui a mis ça sur pied, qui est capable de, je dirais, à ce niveau-là, de séparer les déchets, de les trier. C'est-à-dire de façon automatique, vous versez les déchets et en fin de compte, vous les récupérez déjà séparés. Et nous avons d'autres unités de recherche comme BioInnovate, qui gère aussi les déchets au niveau de l'université évangélique en Afrique. BioVet, qui est piloté par professeur Bintou Ndoucha, qui essentiellement produit des biogaz à partir des déchets, qui produit et c'est en vente déjà des engrais à partir des déchets solides, organiques. Et nous avons aussi le professeur Mondo qui est impliqué dans ce mois vert, dans ce programme, qui a aussi un programme sur la production de champignons à partir des déchets. Et toujours dans Fab Lab, comme vous avez visité, nous avons aussi une dame par rapport aux déchets, parce que Fab Lab, ce sont des déchets plastiques essentiellement, qui est en train de produire de mouches, du moins de vers de terre à partir de mouches soldats noirs. Donc voilà, il y a une série de réflexions qu'on a dû mener à l'Université évangélique en Afrique par rapport à toute cette problématique. Et on va plus loin parce que nous savons au moins jusqu'en 2050, jusqu'à 2060, que devait devenir la ville de Bukavu et quelles sont les solutions sur le plan de la sécurité alimentaire, sur le plan de la gestion des déchets et toute autre question en rapport avec l'agriculture et d'autres composantes de la vie.
Professeur, à bien vous entendre et pour bien sûr la compréhension des auditeurs, les déchets ne sont pas à détruire. Les déchets ne sont pas à brûler, comme nous le constatons souvent dans les ménages. On n'assure même pas le tri, mais en les rassemblant, la tendance est directement les brûler et consommer. Donc il y a une dimension de transformation qui s'impose aujourd'hui dans les déchets.
Absolument. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied des unités comme des Fab Labs et les autres unités dont je parlais tout de suite. Par exemple, les déchets organiques sont utiles pour la fertilisation des sols, pour la production de champignons, pour la production de biogaz. Et les déchets plastiques, on peut leur donner d'autres vues. Vous avez vu une série de projets que nous avons au Fab Lab. Et nous disons que ça devrait plutôt être une opportunité. Et c'est juste un peu de volonté, comme le directeur de la DDC le disait. Les déchets, on devait les voir comme une opportunité. Et aujourd'hui, pour moi, je me dis, ok, les gens s'ennuient un peu avec les déchets plastiques. Mais nous sommes en train de projeter dans 2 ans, 3 ans, les déchets plastiques, vous les chercherez, vous ne les trouverez pas. C'est comme vous voyez un peu aujourd'hui les déchets métalliques. Il n'y en a plus parce que c'est devenu du business. Il y a des gens qui passent chaque matin, à tout moment, Tounanounou, Adjouma, ainsi de suite. C'est-à-dire que nous allons arriver à ce niveau-là. Et nous nous donnons maximum une année, 2 ans pour y arriver. Voilà pourquoi, par exemple, à l'IEA, nous avons un broyeur qui peut faire 5 tonnes de déchets par jour pour essayer de préparer de la matière première pour tous ces jeunes qui ont des initiatives de valorisation des déchets plastiques. Donc bientôt, ça sera un problème oublié, correctement traité et du business qui donnera de l'argent aux gens qui seront intéressés.
Merci beaucoup, professeur Pascal. Vous êtes plus dans le domaine de l'hydrobiologie. L'eau vous intéresse. Disons, c'est votre matière grise. Les déchets, comme le directeur ou disons le chef de coopération internationale au bureau de la coopération suisse l'a dit, les bouteilles restent suspendues sur le lac Kivu. Mais quelle est la conséquence de cet état des choses sur les êtres qui vivent dans le lac?
Monsieur Expedi, comme vous venez de le dire, nous nous intéressons principalement aux milieux aquatiques. En tout cas, notre laboratoire, l'unité d'enseignement et de recherche en hydrologie appliquée, on s'intéresse principalement à tous les écosystèmes aquatiques, d'abord de la province et puis d'ailleurs. Et donc, à première vue, nous, c'est les organismes aquatiques, la qualité de l'eau qui va avec. Et quand on essaie d'analyser la qualité des eaux de nos écosystèmes aquatiques, comme le professeur Kacho venait de le dire, c'est la catastrophe. Malheureusement, ça ne se voit pas à l'œil nu. Et donc, les gens se permettent d'utiliser ces différentes catégories d'eau sans se poser de questions sur la qualité de cette eau-là. Et non seulement que ça pose problème au niveau des humains, parce qu'on sait bien que les usages domestiques, la plupart des usages domestiques ici, les gens font recours à tous nos écosystèmes parce que finalement l'accès à l'eau potable aussi pose énormément de problèmes dans la ville, mais ça pose énormément aussi problème à la biodiversité des écosystèmes aquatiques. Nous vivons principalement ici de poissons. C'est vrai que sur les marchés, on voit la plupart des poissons qui sont importés, mais Le Sambaza, c'est une marque déposée, on va dire comme ça, de la ville de Bukavu. Il est impossible de passer quelques temps à Bukavu sans avoir mangé le Sambaza. Et les gens ne se posent pas de questions que nos habitudes quotidiennes en matière de gestion des déchets, liquides comme solides, mettent en danger toutes ces ressources-là. Déjà, si on commence, avant de parler des bouteilles plastiques dont vous aviez parlé là, je vais commencer d'abord par les déchets liquides. On sait qu'à Bukavu aujourd'hui, que ce soit les maisons qui vivent, qui sont érigées dans les lacs, moi j'ai dit comme ça, pas même autour du lac, parce qu'on voit bien que les 100 mètres de rive protégés par la loi ne sont même pas respectés. Les gens ne construisent même pas dans les 100 mètres de rive, mais ils construisent dans les lacs. Et donc pratiquement toutes ces maisons-là n'ont pas de fosse septique, donc les eaux usées sont déversées directement dans les lacs sans aucun traitement préalable. Ça, c'est pour les maisons qui sont tout autour du lac. Mais les maisons qui sont éloignées des lacs, donc même Kadoute, tout ça, il n'y a aucun centre de traitement d'épuration des eaux usées dans la ville. À l'époque coloniale, il y en avait deux dans la ville. Il y avait un centre d'épuration au quartier industriel ici, deux poteaux. Il y avait un autre du côté de Bagira, mais tous ces centres-là sont aujourd'hui inopérationnels. Et donc, toutes les eaux de tous les ménages de la ville finissent leur course au lac Kivu, dans la rivière aussi, sans aucun traitement préalable. Et c'est vraiment la catastrophe quand on analyse la qualité des eaux de nos différents écosystèmes aquatiques. Malheureusement, ce n'est pas seulement de l'eau, ce n'est pas seulement l'eau usée qui finit sa course dans les lacs. Toutes les bouteilles, comme le directeur l'a dit, après chaque pluie, on voit bien une pile de bouteilles au-dessus des lacs. C'est vrai que les bouteilles, en tant que plastique, ne se décomposent pas vite. Il faut pour décomposer un plastique autour de 400 ans. Mais le fait que ça reste suspendu au niveau de l'eau comme ça, ça commence à se décomposer petit à petit et ça libère des microplastiques. Et la problématique des microplastiques est très dangereuse aujourd'hui. Pour ceux qui seront à la conférence qui sera organisée à l'ISP le vendredi, on en parlera un tout petit peu parce qu'on a déjà mené des études sur les microplastiques au lac Kivu et il y a une très grande concentration de microplastiques dans les eaux du lac Kivu et dans tous les organismes de la chaîne trophique. On les a analysés dans les macro-invertébrés, dans les poissons. Il est donc sûr que si on essaie de faire des analyses dans les sangs des humains qui vivent à Bukavu, qui consomment tous ces poissons-là, c'est sûr et certain qu'on trouvera des quantités de microplastiques. Or, aujourd'hui, on sait que les microplastiques sont à la base de beaucoup de problèmes sanitaires. Donc, ces déchets-là ne posent pas seulement problème au niveau de la beauté, donc paysagère, mais également au niveau de la santé. Il faut que les gens soient conscients de cela.
Voilà, c'est bien entendu. Et quelles sont par exemple les particularités de la ville de Bukavu, différemment par exemple d'Uvira et de Fizi?
Déjà, la ville de Bukavu, on sait très bien, elle est densément peuplée. Elle est très densément peuplée. Et la topographie de la ville est différente de Fizi et d'Uvira. Ici, on voit bien que vous avez des reliefs très accidentés. Et ces reliefs très accidentés, effectivement, ces reliefs accidentés participent effectivement à cette prolifération de déchets parce que ça coule tout de suite facilement vers les lacs. Mais également, en tant qu'une grande ville, donc les gens ont cette mentalité-là de vouloir chaque fois... donc la mentalité d'utiliser les objets isogéniques. Ce qui n'est pas le cas. Quand vous allez à Fizi, par exemple, à Fizi, c'est rare de trouver des gens qui se donnent le loisir de prendre de l'eau en bouteille. Très souvent, moi j'ai travaillé là-bas, comme tu le sais très bien, pendant plusieurs années.
Ouais.
Et donc, très souvent là-bas, les gens font recours directement pour l'eau de boisson, par exemple, au forage ou directement au lac, ouais, ou dans les rivières. Ouais. Ce qui n'est pas le cas ici à Bukavu. Dans pratiquement tous les ménages ici à Bukavu, vous avez des gens qui consomment de l'eau en bouteille. Et ils ne savent pas comment gérer ces bouteilles. Ces bouteilles-là finissent leur course directement dans les lacs. Mais il faut dire aussi que cela s'est dit, comme je disais ici, à la surpopulation. Et donc la Régie des eaux est débordée. La Régie des eaux n'arrive plus à approvisionner tous les ménages avec de l'eau de bonne qualité. Nous avons mené une étude, pour votre enseigne, nous avons mené une étude en rapport avec la qualité de l'eau que la Régie des eaux produit à partir de la station de Ngouba.
Justement.
Parce que vous voyez, la Régie des eaux a été débordée.
Qui est captée sur le lac Kivu.
Oui, qui est captée sur le lac Kivu. Donc la Régie des eaux a été débordée. La Régie des eaux a essayé de trouver des solutions parce que Murundu n'arrivait plus à satisfaire toute la population de la ville. Donc la Régie des eaux a été obligée de créer des stations de traitement des eaux. Donc il y a une station en Gouba, ils prélèvent directement de l'eau dans les lacs. Alors nous avons mené des recherches pour voir comment est la qualité de cette eau-là. Donc on a prélevé de l'eau au lac, là où on prélève de l'eau.
Que les consommateurs jugeaient de salée.
Oui, oui.
Qui était un peu différente de l'eau prélevée à Mouroun.
Tout à fait. Mais ce qui nous avait poussé à mener cette étude-là, c'est que nous sommes dit, déjà cette eau-là, à cette époque-là, quand elle coulait au robinet, elle avait une coloration un peu bizarre.
Oui.
Et nous nous sommes dit, si déjà on ne se préoccupe pas de la qualité extérieure visible, donc on suppose que la qualité invisible microscopique doit être pire. Et donc nous avons prélevé des échantillons là où la riche des eaux prélève de l'eau. Nous avons prélevé des échantillons dans la cuve de traitement de la riche des eaux, dans l'enclos de Père Blanc à la Rosise là-bas, et à différents robinets et en quittant les centres de traitement. C'est vrai que dans la cuve de traitement, on voit que la régie des eaux arrive à diminuer les micro-organismes d'environ 85% par les traitements. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne, les micro-organismes commencent encore à augmenter parce qu'ils ont connecté l'eau au système de distribution qui existe, qui date malheureusement de l'époque coloniale. Et donc, il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Et donc, les gens, comme je disais ici, il y a des fuites partout. Et donc, les eaux usées qui viennent de nos ménages arrivent à pénétrer dans les réseaux de distribution de l'eau de la riche des eaux. Et donc, du coup, à cause de ça, les gens doutent de la qualité et du coup, ils recourent directement à l'eau embouteillée. Et c'est ce qui fait à ce qu'on a une tonne, des milliers de bouteilles plastiques partout, finalement, dans la ville.
Au-delà des déchets, mais également de la conséquence sur la santé humaine et la santé des êtres qui vivent dans le lac, il a été constaté également que les eaux ont quitté leur lit naturel, que ce soit dans la partie sud de la province, le lac Tanganyika, que ce soit dans la partie qui nous concerne ici avec le lac Kivu. Il y a eu une catastrophe qui a été signalée à Bouchouchou et Nyamukubi. Pour vous, cela est dû à quoi en cette période?
Bon, il y a plusieurs facteurs qui concourent à cela. D'abord, les facteurs climatiques. C'est qu'on sait que dans la partie est de l'Afrique, il y a une augmentation des eaux due au réchauffement des eaux au niveau de l'océan Indien et qui donc modifie la pluviométrie dans la région. Ça, c'est connu déjà, bien documenté. Mais il y a des facteurs anthropiques qui accentuent cette situation dans notre zone ici.
C'est-à-dire des facteurs dus à l'activité de l'homme.
Dus à l'activité de l'homme. Déjà, on sait, comme je le disais ici, qu'il y a un relief accidenté et les gens font, par exemple, de l'agriculture sur des zones impropres à l'agriculture. Des gens construisent sur des sites impropres à la construction de manière anarchique, comme on les voit par exemple ici à Bukavu. Et donc ça accentue l'érosion. Dans les cycles de conférences organisées par les universités pendant ces mois verts, l'IOB, la conférence qui sera organisée à l'IOB le 11 de ce mois de mars, sera consacrée en grande partie sur les aspects des érosions dans la ville. Et donc ça accentue l'érosion. Et quand il y a érosion comme ça, une forte sédimentation dans les écosystèmes aquatiques, c'est qui diminue à la profondeur. Justement. Et donc en diminuant la profondeur, du coup, l'eau déborde. L'eau déborde et ça crée tous les problèmes que nous voyons tout autour. Mais aussi, il y a des gens qui participent au bouchage des caniveaux. Donc quand ils bouchent des caniveaux en y jetant des déchets, comme on a dit ici, les eaux finissent par déborder et ça crée des catastrophes partout.
Adolphe, vous êtes de l'organisation PDH RDC. Que faites-vous avec d'autres acteurs pour, disons, la protection des sites déjà exposés, des sites menacés par les éboulements et les érosions?
Et merci beaucoup. Merci pour cette bonne question. En tout cas, si vous voyez notre ville et la ville de Bukavu, ou disons, toute la province des sites qui vont en général, elle est parmi les provinces de la RDC les plus exposées aux érosions et aux éboulements. Et c'est pourquoi on parle des sites qui doivent être protégés. Parce que quand on voit même les reliefs de la province des sites Kivu, c'est purement montagneux, de façon que, avec les constructions anarchiques, il y a toujours, à chaque fois que vous coupez les arbres, il y a toujours des sites qui se créent, qui sont des sites de dangers. Et c'est pourquoi on entend souvent les maisons qui s'écroulent, il y a toujours mort des personnes.
Est-ce que vous avez déjà identifié certains sites à titre indicatif dans la ville de Bukavu et dans les milieux voisins?
Effectivement, on a commencé l'activité d'identification des sites qui nécessitent une protection. On a environ une vingtaine. Mais dans le cadre du mois vert, parce que le mois vert c'est juste un mois de sensibilisation, où on doit conscientiser la population, il y aura quelques sites qui sont des sites pilotes, notamment les sites les Versalice Wima, où vous voyez la partie qu'on appelle actuellement Yesu Yesu. C'est un site en tout cas qu'il faut protéger, sinon on va perdre à la fois la route, mais aussi les écoles, les universités qui sont là. Vous voyez les lycées Wima, Litfame, l'IOB et tout ce qui est comme ménage qu'on a mis pour le moment.
Parlons de ces sites, est-ce que vous pensez que le simple fait de planter les arbres va le protéger et dispenser des dangers à venir?
En fait, on va commencer par planter les haies vives, parce que vous voyez que les sites là, si on continue à y mettre des arbres comme les agroforestiers, qui peuvent aussi peser, et avec les vents, peut-être aussi les mêmes arbres, en grandissant, peuvent aussi partir avec la terre. Mais nous, on va commencer par planter les arbres, disons les haies vives, qui sont les arbres qui protègent aussi la terre. Mais nous comptons beaucoup plus mettre les tripsacum, les bambous, et on verra aussi comment mettre peut-être les agroforestiers au niveau des l'ISD. Mais en ce qui concerne les sites là, en tout cas, il faut des arbres fixes à terre, parce que les autres arbres peuvent toujours continuer à causer des problèmes. On a identifié aussi d'autres sites au niveau des panzis, au niveau des élacates. Au niveau de la CAT, en tout cas, c'est un site qui nécessite aussi une protection, parce qu'on ne protège pas seulement les sites, mais on protège aussi la population. Aussi longtemps qu'on coupe les arbres, on est en train d'exposer non seulement la ville, mais c'est presque toutes les planètes, toute la planète, disons, et qui est en danger. On ne sait pas voir les effets de couper les arbres directement, mais on les voit à partir des changements climatiques. On commence à observer aujourd'hui des désordres en ce qui concerne la saison de pluie, la saison sèche. On ne sait plus, la saison de pluie commence quand il y a beaucoup de désordres. Tantôt c'est une forte pluie avec beaucoup d'inondations. Les maisons qui partent, comme le directeur l'a dit, et dernièrement vous avez vu au niveau de la place de l'Indépendance, comment est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pluie là. Ce sont les conséquences des arbres qui sont toujours coupés. Mais aussi à tout ce qui est comme conséquence par rapport à l'insécurité alimentaire aujourd'hui. Il y a déjà les agriculteurs qui commencent à subir la conséquence de couper les arbres en désordre. C'est pourquoi nous, on est en train de penser à protéger à la fois les sites, mais aussi à restaurer les écosystèmes. Parce que pour ceux qui ont grandi dans la ville de Bukavu les années avant 90, vous verrez qu'il y avait en tout cas des arbres un peu partout. Et il n'y avait pas des inondations. Il y avait moins d'incendies. Et c'est pourquoi nous, on est en train de penser que, en tout cas, ça serait une occasion pour sensibiliser la population de Bukavu sur la plantation encore des arbres. Ceux qui ont des sites qui nécessitent une protection, ils peuvent venir auprès de nous. En tout cas, on a une quantité pas très très importante par rapport à la demande pour le moment. Mais si on parvient d'abord à identifier tous ces sites-là, on aura une base de données et on peut toujours continuer à faire les plaidoyers. Et donc, le mois vert, c'est pas seulement un mois pour sensibiliser, mais c'est aussi un mois de plaidoyer pour appeler tous les autres acteurs qui interviennent dans la protection de l'environnement pour que nous puissions conjuguer les efforts ensemble afin de voir comment trouver quelques solutions par rapport aux problèmes là des déforestations, les problèmes des changements climatiques. Et donc, c'est pourquoi nous, on a commencé par identifier tous les sites qui nécessitent la protection. Et ce qui est vrai, qu'on commence à avoir quelques impacts par rapport, même à quand on a commencé à lancer les mois verts, il y a ceux qui commencent à prendre conscience, qui commencent déjà par planter les arbres, comme il y avait même une activité hier. Mais aussi, quand on est en train de sensibiliser, il y a plusieurs écoles qui s'est dit que non, même si vous partez, vous avez identifié les sites à protéger, mais c'est mieux aussi de planter les arbres au niveau de nos écoles. Il y a plusieurs demandes, il y a des demandes à l'IEA, il y a des demandes à l'Institut Fazili, il y a des demandes dans certains couvents des séries au niveau de la ville de Bukavu. Donc, bref, on a d'abord identifié les sites qui sont les sites à problème au niveau de la ville de Bukavu. Mais ce qui est vrai, que les problèmes, on doit les rechercher à la fois en amont et en aval.
Justement.
C'est sûr qu'on aura l'état d'aller dans les environs de la ville de Bukavu, qui sont par exemple les territoires de Kabare, Nyantende, Chirunga, Mudaka, pour voir si est-ce que réellement il n'y a pas aussi des problèmes qui viennent de ces territoires-là.
Voilà.
Donc, c'est un peu ça.
Merci beaucoup, M. Adolphe Mukula, Franck. l'arrêt fait pour, à certains égards, châtier les mœurs. En quoi l'art peut intervenir dans la protection de l'environnement et la gestion des déchets dans la ville et sur l'ensemble de la province?
Oui, pour ce qui concerne l'art, ce sont des métiers de culture qui accompagnent en même temps la communication. Parce que pour communiquer avec la population, il faudrait qu'on ait des outils qui interpellent les sens de la population. Et c'est pour cette raison-là que nous avons pensé que notre apport pourrait être un appui à la communication totale qui se fera autour de la thématique de protection de la ville contre les déchets. Et déjà, les artistes eux-mêmes, ils commencent à utiliser ces déchets dans leur métier des arts plastiques. On parle des arts plastiques pour parler du beau, mais on utilise encore le plastique pour pouvoir faire du beau avec le plastique. Mais nous avons aussi la filière des musiciens qui interpellent aussi les populations, qui peuvent rassembler des populations, qui composent des chansons sur l'environnement et qui pourraient rester en train de résonner entre les cœurs des habitants de la ville de Bukavu. Nous avons aussi les bédéistes qui ont travaillé sur des bandes dessinées et qui pourraient être des papiers, des supports qui restent entre les mains des jeunes, qui permettraient aux jeunes de savoir comment protéger la ville. Et de cette manière, dans la conception, nous faisons tout pour pouvoir interpeller surtout la conscience et beaucoup plus toucher les émotions. Parce que si un artiste crée, c'est pour chercher à toucher l'émotion de la personne. Et c'est pour cette raison-là que nous avons touché tous les métiers d'art pour qu'ils accompagnent. Nous avons une série de métiers d'art qui accompagnent. Je vais parler en même temps de la photographie. Pour la photographie, nous allons avoir, on va avoir une vision de Bukavu hier et Bukavu aujourd'hui. Nous pourrons mettre à la disposition de la population les photos antérieures de la ville de Bukavu, et en mettant à leur disposition ces photos, nous aurons des photos actuelles qui pourraient aussi interpeller les consciences. Nous avons aussi dans les archives ceux des témoignages qui ont été faits en vidéo sur la ville de Bukavu, et de nouveau nous allons essayer de remettre ça en surface pour que ce soit aussi un support de communication, et cela pourrait aider à bien comprendre, à bien assimiler tout ce qu'on communique autour de la ville, parce qu'on a quelque chose en image et on sait qu'une image, elle vaut mille mots.
Justement, au vu de votre expérience, Monsieur Franck, plusieurs décennies dans l'art, est-ce que vous pensez que l'art peut changer un comportement précis dans une communauté?
Mais oui, parce que l'art, c'est d'abord une création de l'homme. C'est une création de l'homme pour essayer d'interpeller une conscience. L'art, c'est... Donc, quand un artiste crée, il voudrait toucher l'émotion. Il voudrait toucher l'essence. Or, dans l'éducation ou bien dans la sensibilisation, nous touchons l'essence de la personne. Quand on parle de sensibilisation, on va vers l'essence. Et les artistes, c'est eux qui interpellent l'essence de l'homme. Il y a des choses qui sont dites par l'intellectuel, qui sont communiquées en intellectuel, mais à la fin, il faut quelque chose qui reste parce que l'essence a été touchée. C'est là le rôle de l'artiste.
Merci beaucoup, Franck, pour cette participation. Enfin, de Ouassiasa Chubaka, éditeur responsable du média en ligne Terra Nova, c'est une terre nouvelle. De Ouassiasa, quel est le rôle des médias, ou disons, quel rôle les médias peuvent jouer pour appeler la communauté à protéger l'environnement?
Merci, Expedi. Alors, il faut d'abord dire aujourd'hui que parler de l'environnement, ce n'est pas d'illix, hein. C'est déjà une nécessité. Parce que chaque jour, nous voyons les conséquences de la déforestation, de la mauvaise gestion des déchets, de la pollution de l'eau, de l'air, des maladies hydriques ici et là. Et voilà, face à tout ça, les médias ont une grande responsabilité. Alors ici, je vais parler des 5 grands rôles. Le premier, d'abord, les médias ou les journalistes doivent informer et sensibiliser. Alors, les journalistes doivent expliquer clairement, avec l'aide des scientifiques, vous avez suivi les profs Pascal, les profs Cacho, les causes et les conséquences des problèmes environnementaux aujourd'hui. Les gens doivent comprendre, prendre conscience de tout ce que nous vivons également aujourd'hui. Informer, c'est permettre donc à la population de comprendre, par exemple, que jeter des déchets dans des caniveaux peut provoquer des inondations des mers, montrer, par exemple, que les microplastiques ou les plastiques que nous jetons et qui finissent dans des lacs, les poissons consomment ces microplastiques et qui reviennent dans notre chaîne alimentaire avec des conséquences graves sur la santé, comme l'a démontré le professeur Pascal. Montrer, par exemple, aussi que des déchets perturbent aujourd'hui, nous le savons, gravement les fonctionnements du barrage hydroélectrique des Rosiers Premiers. On a souvent des délestages au niveau de la ville de Bukavu parce qu'au niveau des grilles, au niveau du barrage, des fois ces grilles sont chargées et l'eau n'arrive pas en quantité suffisante dans les turbines et il faut des fois arrêter les machines pour déboucher les grilles. Donc il y a des fois des perturbations sur les barrages. Il faut aussi, par exemple, essayer de sensibiliser la population, éduquer la population aux bonnes pratiques écologiques. On peut déjà, par exemple, et commencer à dire à la population comment trier les déchets à la maison, donc à partir déjà du ménage, ça peut être déjà un premier acte responsable. On peut encore sensibiliser la population. L'épreuve Pascal a montré aujourd'hui comment le lac Kivu est aujourd'hui déjà considéré ou transformé en une décharge publique. Le lac est en train de perdre sa profondeur parce qu'il y a des déchets qui sont toujours versés là-bas, il y a des plastiques qui pilulent, qui flottent sur les lacs. On peut sensibiliser la population sur la protection des lacs. Les riverains aujourd'hui, certains, nous avons appris, qui commencent déjà à considérer les lacs ou à transformer les lacs en l'air faux sceptique, ce qui est très grave. On peut sensibiliser également la population à la protection de nos parcs, comme le Pinkabé aujourd'hui, très victime de la déforestation et toute exploitation forestière et minière. Sa biodiversité également. Nous avons par exemple la réserve naturelle du Tombwe, les sites touristiques au niveau des Fizi. Sensibiliser également la population à participer activement aux travaux communautaires, ainsi de suite. Donc ici, pour ses premiers rôles, les médias deviennent des acteurs du changement social et un citoyen bien informé devient donc un citoyen responsable.
Alors, cette sensibilisation peut se faire par quel type, disons, de production médiatique?
Voilà, nous comme médias, nous avons des outils, ce que nous appelons des canaux de communication pour transmettre un message. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe 6 grands médias, par exemple la radio. On peut produire des émissions, comme d'ailleurs dans le cadre du mois vert, les blocs médias à des émissions qu'il va réaliser. Nous avons aussi une émission publique que nous allons réaliser le 22 mars au Stadium Laurent-Désiré Kabila de Bolo 4. Nous avons des spots éducatifs, c'est-à-dire des messages éducatifs qu'on peut passer à la radio. On va réaliser aussi des sketchs dans lesquels on peut passer des messages. Il y aura d'autres émissions. Il y a des contenus, des infographies. Nous, par exemple, au niveau de Terra Nova, on donne régulièrement des messages de sensibilisation via les réseaux sociaux, dans des groupes, des petits messages avec affiches, juste pour aider de conscientiser la population. Donc, on a plusieurs canaux, à la télévision, à la presse écrite, comme la presse en ligne, avec les cinémas, avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme canaux digitaux avec l'Internet, qui peuvent être utilisés ou mis à profit pour justement sensibiliser la population. Alors, deuxième rôle, les journalistes peuvent enquêter et interpeller les autorités. C'est-à-dire, les médias jouent un rôle de veille. Parce qu'ils doivent enquêter, poser des questions aux autorités, demander des comptes lorsque des politiques environnementales ne sont pas appliquées ou lorsqu'il y a des projets, on peut faire les suivis, voir si les moyens alloués aux projets ont été réellement utilisés en tant que tels, de la redevabilité. Les journalistes et donc environnementales ici peuvent dénoncer aussi les décharges sauvages. Vous voyez par exemple au niveau de la pente Yessou-Yessoudé, aujourd'hui on commence à considérer cette partie comme une décharge publique, estimant que les déchets qu'on pose à ce niveau peuvent aider à stabiliser les glissements de la route à ce niveau, alors que ce n'est pas normal, ce n'est pas faisable. Et si vous passez à ce niveau, déjà il y a une odeur nauséabonde qui se dégage à ce niveau, alors qu'il y a des personnes qui habitent à ce même endroit, et déjà les déchets qui sont là, attirent les moustiques. Les moustiques peuvent créer des maladies aux personnes qui sont tout proches de ces lieux et d'autres, parce que déjà avec l'odeur qui se dégage dégage là-bas, on peut inhaler de l'air qui n'est pas aussi propre, et donc c'est des conséquences. On peut dénoncer ces décharges sauvages, relever les responsabilités institutionnelles, les rôles de la mairie et les rôles des communes, du gouvernorat, des ministères, de la présidence de la République, des institutions, donc mettre en lumière les pratiques illégales d'exploitation, par exemple anarchique, et de destruction des écosystèmes. Et ici donc, pour ce deuxième rôle, un média responsable agit donc comme un contre-pouvoir. Ce n'est pas pour accuser ou devenir militant, non, c'est juste exercer un devoir citoyen au service du bien commun. Et comme troisième rôle, nous, comme médias, nous pouvons valoriser les bonnes initiatives. Il y a des jeunes aujourd'hui qui valorisent les déchets. Il y a par exemple les liés avec les Fab Labs, avec des technologies innovantes pour traiter les déchets. Nous, comme médias, nous pouvons donc essayer d'amplifier ou de valoriser ces initiatives, raconter ces histoires positives afin d'inciter ou d'inspirer d'autres initiatives à travers nos canaux de communication. Si on diffuse régulièrement ces initiatives, ces solutions qui donnent espoir, et cela peut donc inspirer d'autres personnes. Et comme avant-dernier rôle, le plus grand également, il y a toujours la désinformation qui est aussi à notre portée. Et des gens parlent à tort et à travers du changement climatique. Nous avons appris à travers la formation qui a été organisée, ce n'est pas parler du changement climatique à tort et à travers. Il faut se baser sur des données scientifiques de plus ou moins 30 ans. Il faut toujours interroger les scientifiques pour justement appuyer nos reportages, nos informations. Donc on ne doit pas aussi aller dans des erreurs de terminologie. Donc avec la désinformation dans les domaines environnementaux, il y a aussi des rumeurs qui circulent, et le rôle du journaliste est de vérifier les informations. Vérifier les informations, consulter les experts, les scientifiques, et expliquer les faits scientifiques de manière simple. Et enfin, faire les plaidoyers auprès des autorités sur des informations crédibles pour influencer les politiques publiques. Donc, avec ces mois verts que nous lançons aujourd'hui sous l'impulsion du bureau de la coopération suisse, c'est bien plus qu'une série d'activités. Vous avez suivi ce que le bloc média va faire. Il y a déjà des émissions qui seront produites. Il y a des spots éducatifs, il y a des débats, une émission publique, des sketchs. On va faire la couverture de toutes les activités qui seront organisées par les académiciens, les ONG, les artistes, ainsi de suite, pour amplifier toutes ces activités. Et donc, aujourd'hui, c'est un appel à la conscience collective, un plaidoyer pour la vie, pour la biodiversité, l'avenir de nos communautés en République démocratique du Congo, du Kivu et de Bukavu, c'est notre responsabilité
Merci
collective.
Merci beaucoup, Deora Sachubaka. Ouais. Nous clôturons cette partie. Professeur Kacho, mon Kiswahili, ça serait intéressant, Ambiwatu, dis-moi vers Inamani Shanini, c'est quoi exactement? Parce qu'il est bitaku ae mui mwezi wa tatu, mui mwaka wa 2026, professeur Kachoama, professeur Pascal Massilia, nge fafanua kwa wasikizaji wa Radio Maendeleo ki ni ama sens ya hii kampeni mwa vert.
Bon, tutasema kama kampeni ya hii mwa vert, vile yetu ya Bukavu, kama watu wanajua, zamani ilikuwa ukipita fasi yote unaona vile iko mzuri, mimea fasi yote. Kwanza sisi tuanda kwa masomo tulikuwa nakamata mwavini hipodrome kwa mamiti ngambo yote, tulikuwa nacheza bule mambeko kule, tulikuwa nacheza kabumbu mjini. Sasa leo hakuna miti tena fasi yote, walikata miti fasi yote, walienga kiolela fasi yote, inatuma kama watu waanza tupa uchafu fasi yote. Hakuna tena fasi ya kuchezea, hakuna fasi ya kupumuzikia, kuvuta hewa nzuri, hakuna. Sasa hii kampeni ya hii mwezi ni kutafuta kulamusha dhamiri ya watu, kuonesha kama tuliharibisha mugini yetu, na tunapashwa sisi wote kujiunga pamoja kusudi ya kuangalia namna gani utaweza kusahihisha ile ngaliki itaweza sahihishiwa. Nani pale tulikamata Cooperation Suisse ilileta ile initiative ya kutia watu wote pamoja, watafiti,
wasanii,
pashabari, kusudi kila mtu na ngambo yake alete ujuzi yake kusudi ya kusensibilize wakuu wa nchi, kusensibilize watu, kusensibilize watoto wa masomo, zaidi watoto wa masomo, sababu ni wao watakuwa wakubwa kesho kusasiliza watoto wa masomo kusudi kila mtu alete mchango yake kwa kusaidia mugini yetu vile yetu kukamata tena sura nzuri kidogo pa gisi ilikuwa zamani, sababu tunaona kama mugini tuliharibishiwa na inaleta maafa mingi kwa watu, kwa wanyama, kwa vitu vyote. Mungine haiko tena mungine. Inalomba sasa watu wote wajikaze kusudi ya kurudisha sura kidogo ya mungine sawa vile mzuri. Na ni ile njoo ilituma hii kampeni inafanyiziwa.
Merci, tunashukuru professeur Pascal Massilia. Adolphe, rendez-vous avec vous au courant de ce mois de mars pour l'activité de la plantation des arbres.
Oui, merci beaucoup Expedie. Et tumeanza déjà, on a déjà commencé parce qu'il y a aussi les artères, les ronds-points qui sont devenus des dépotoirs et qu'on doit aussi protéger. Et au Katoka Twinja, à Dioma Ndele, on a déjà que l'artère et autres, c'est déjà occupé par les commerçants. Et nous, on a dit avec l'Amérique, en tout cas, ça ne devait pas continuer comme ça. Il faut qu'il va comprendre que Bukavu, il n'a pas chapeau à tâter dans Surayake, Bukavu, ville propre, Bukavu, ville verte. Et c'est ainsi que tumeanza déjà na ma travaux à la bourre pour que tu angali kama yo martère yo marron po enyeri kwe megeuka mafasi ya kuzishia tunaweza tena kutia komaua tunaweza kupanda komiti
ile activité Olivier Vuninga alikuwa anafanya
effectivement parce que
zamani mvile
sable tunasema heureusement tuko karibu kabisa ya martère zenyezi ko deja occupé ukakamata tu axe 10e région militaire mpaka pa ku bank central utakutana kama dépotoire ya hiyo maboutique zote imegeuka leo ni yoma marompwe nubo martere wenye kukua katikati ya barabara. Donc atufukuze wale watu, lakini tunawakonsientize, tunawasensibilize kuwaonesha kama haiko kila fasi njo garage, haiko kila fasi njo kunapasha kwa soko, haiko kila fasi njo kwenye unaruhusiwa kutupa uchafu. Malheureusement kuko avenue zingine zenye azina ba chef d'avenue, sa vile avenue de la cathédrale où on devait travailler avec le chef d'avenue, anakuambia kama ana ménage, hakuna ma ménage mwa hiyo avenue. Par conséquent, ni ma maison commerciale et tout. Na kwenye akuna ma ménage, akuna chef d'avenir. Donc, comme cible et tout, à la fois, tu me kamata aussi, et wale wachuruzi kote kome watu wakusensibilize. Malheureusement, wawezake onekana wanachikamata kuwa wenye wako concentré sana na uchuruzi. Donc, c'est pour nous une occasion ici à travers l'émission Paix et Développement de sensibiliser tous les commerçants pour leur dire que les artères, en tout cas, ne sont pas des dépotoirs, on doit les protéger.
Merci beaucoup. Professeur Kacho, pour clore, est-ce que vous pensez qu'à travers une telle campagne, on peut changer les comportements?
Absolument, absolument. Sinon, on désespérait, comme je vous ai dit, nous, on sait que c'est un problème qui a une solution. C'est un problème qui a une solution et qui va trouver des solutions parce que il y aura l'implication de tout le monde après cette campagne. Nous, l'IEA, surtout l'IEA comme université évangélique en Afrique, les passés c'est nous et l'avenir c'est nous. Si vous voulez savoir jusqu'au mètre carré ce qu'était la ville de Bukavu en 1990, ce que serait la ville de Bukavu à 2100, son climat, son urbanisation probable, l'IEA est vraiment l'endroit indiqué pour faire tout cela et pour la gestion des déchets. Nous avons des unités qui peuvent faire une gestion innovante et durable des déchets.
Voilà, monsieur le directeur, le chef de coopération internationale au bureau de la coopération suisse en RDC, Thomas Yenatz. Enfin, quel message à la population en ces débuts aujourd'hui du mois vert? C'est avec vous que nous terminons l'émission d'aujourd'hui.
Bon, il faut dire que
cette première partie de l'émission, bien évidemment.
C'est une activité pas mangea. Tous ensemble, pas mangea. Vous, chers auditeurs, vous, chères autorités, vous, les gens dans les foyers, les étudiants, les jeunes et les vieux, vous, les médias, vous, la société civile, vous, les scientifiques, tous ensemble, on va faire la différence. Donc, on vous invite de venir, de participer activement dans tous les événements. Il y a des sites internet et des Facebook qui montrent quelles sont les activités de tous les jours. Donc venez numéreux, venez nombreux, venez participer. Tous ensemble, on fait le changement. Pamoja.
Pamoja, oui, tous ensemble. Merci à Deogratias Chubaka, qui est éditeur responsable du média en ligne Tela Nova. C'est un média 100% environnement, un média qui n'est pas dans la politique, dans l'économie et le sport, mais qui traite essentiellement des questions environnementales. Fière chandelle à vous pour ce projet. Merci donc au professeur Kacho Karume de la faculté d'agronomie à l'Université évangélique en Afrique. Il est de l'unité Fab Lab de cette université. Professeur Pascal Massilia, nous vous disons également merci. Adolphe Mugula tout autant. Franck Moïse, nous vous remercions également pour la participation à cette émission. Espérons vous retrouver tout au long de ce mois de mars, le mois vert en cette année 2026. Jean-Claude Daguet, un petit message, un spot éducatif et nous revenons juste après pour parler d'autres questions.
Bukavu prof, commence devant ma porte. Chaque déchet jeté par terre devient un problème pour tous les quartiers. Trier, c'est respecter sa communauté. Mélanger les déchets, c'est mélanger les problèmes. Alors séparons les organiques de plastique, sortons nos déchets au passage des évacuateurs. Un geste simple à la maison, c'est un grand pas pour la ville. Seul, c'est difficile. Ensemble, c'est possible. Ma rue, ma responsabilité. Un petit geste change ton quartier. Quand chaque avenue s'organise, quand chaque voisin participe, Bukavu devient propre et belle. Bukavu propre, fierté de toutes et tous.
Ceci est un message de la coopération suisse dans le cadre du mois vert.
Bukavu propre commence devant ma porte. Chaque déchet jeté par terre devient un problème pour tous les quartiers. Trier, c'est respecter sa communauté. Mélanger les déchets, c'est mélanger les problèmes. Alors séparons les organiques de plastique, sortons nos déchets au passage des évacuateurs. Un geste simple à la maison, c'est un grand pas pour la ville. Seul, c'est difficile. Ensemble, c'est possible. Ma rue, ma responsabilité. Un petit geste change ton quartier. Quand chaque avenue s'organise, quand chaque voisin participe, Bukavu devient propre et belle. Bukavu propre, fierté de toutes et tous.
Ceci est un message de la coopération suisse dans le cadre du mois vert.
Bukavu propre commence devant ma porte. Chaque déchet jeté par terre devient un problème pour tous les quartiers. Trier, c'est respecter sa communauté. Mélanger les déchets, c'est mélanger les problèmes. Alors séparons les organiques de plastique, sortons nos déchets au passage des évacuateurs. Un geste simple à la maison, c'est un grand pas pour la ville. Seul, c'est difficile. Ensemble, c'est possible. Ma rue, ma responsabilité. Un petit geste change ton quartier. Quand chaque avenue s'organise, quand chaque voisin participe, Bukavu devient propre et belle. Bukavu propre, fierté de toutes et tous.
Ceci est un message de la coopération suisse dans le cadre du mois vert.
Bukavu propre commence devant ma porte. Chaque déchet jeté par terre devient un problème pour tous les quartiers. Trier, c'est respecter sa communauté. Mélanger les déchets, c'est mélanger les problèmes. Alors séparons les organiques de plastique, sortons nos déchets au passage des évacuateurs. Un geste simple à la maison, c'est un grand pas pour la ville. Seul, c'est difficile. Ensemble, c'est possible. Ma rue, ma responsabilité. Un petit geste change ton quartier. Quand chaque avenue s'organise, quand chaque voisin participe, Bukavu devient propre et belle. Bukavu propre, fierté de toutes et tous.
Ceci est un message de la coopération suisse dans le cadre du mois vert.
This lesson in Swahili is dedicated to all you beautiful people around the world. We say Jambo! Jambo!
Mambo Bwana means hello, Mr. Swahili ni rahisi, it's no tongue twister. No problem.
Hakuna matata.
Welcome friend, it's karibu rafiki. Let's have some chai with lots of iliki. No problem.
Hakuna matata.
Hakuna matata means there's no problem. Simba is lion and that's our emblem.
Exactement 8h55 à Bukavu, retour dans ce studio pour la suite de l'émission Paix et Développement de ce dimanche 1er mars 2026. Nous parlons essentiellement des questions sécuritaires à présent. Des affrontements ont repris avec vigueur depuis dimanche 22 février 2026 entre les troupes de l'AFC M23, les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo dans plusieurs villages du groupement de Mubu, Jeffrey de Boavou, dans les hauts plateaux du territoire de Calais. Parmi les villages les plus touchés figurent Maumbezi, Ngomboke, Kilendebi et Katasoma, où les belligérants recourent aux armes lourdes et légères depuis pratiquement 6 jours, expliquent des habitants joints par notre rédaction. La matinée du mardi 24 février 2026, les combats ont repris avec une forte intensité, obligeant des centaines d'habitants à fuir leur village, tandis que d'autres sont restés terrés dans leurs maisons. Alors que les écoles avaient ouvert leurs portes, à Bouchakou 1 et 2, des fortes détonations ont provoqué la panique. Les parents se sont précipités pour récupérer leurs enfants, tandis que les enseignants, comme d'autres paysans, ont dû prendre fuite. Les déplacés se sont dirigés vers les entités situées sur le littoral du lac Kivu, vers d'autres villages jugés relativement sécurisés. Plusieurs témoignages, disons, concordent de leur fatigue face à la persistance de la guerre sous couvert d'anonymat. Un habitant déplacé de Katasomo plaide pour la cessation des hostilités. Je cite, ces affrontements ont encore commencé à Katasomo depuis dimanche 22 février. Les bombes sont d'une intensité indescriptible. Certains restent enfermés dans leur maison, mais nous qui ne supportons plus, surtout à cause de la famine, nous cherchons où aller. Le problème, c'est que ceux qui combattent nous accusent d'être des collaborateurs de leurs adversaires. Nous voulons la paix, nous ne pouvons plus travailler la guerre. Nous fait trop souffrir, nous voulons la paix, a-t-il indiqué. Fin de citation. Entre-temps, les défenseurs des droits humains dans la zone dénoncent le prélèvement, l'enlèvement de 2 élèves de 4e année des humanités portés disparus depuis le 19 février. Les ravisseurs exigeraient une rançon dans les localités des Katasomo, Bouchakou, Nyawarunga et ailleurs. Les activités scolaires restent suspendues depuis pratiquement ce jour-là en raison des affrontements récurrents. Plus de 7 blessés par balle ont été enregistrés. La zone demeure difficilement accessible, compliquant toute intervention, notamment l'assistance aux structures médicales ou l'évacuation des blessés vers des centres appropriés. Des combats signalés également à Kabare, dans le territoire de Kabare précisément, au village de Kaungu dans le groupement d'Irambikatana. D'autres combats ont éclaté tôt le matin de mardi 24 février entre les troupes de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo. Sans donner plus de détails, des sources locales indiquent que les combats ont duré plusieurs heures, provoquant une forte psychose au sein de la population de ces villages situés à proximité du groupement de Bougouré à travers le village de Chibati aux abords du parc national de Kahuzi-Biega. Les affrontements se sont ensuite déplacés jusqu'à Mulangala, dans le groupement de Bougouré. Jusque dans l'après-midi, les paysans qui se rendaient au champ ont dû rebrousser chemin, tandis que les petits marchés ont fonctionné au ralenti. Le calme est revenu plus tard dans la journée, permettant aux habitants de se ravitailler, concluent nos sources sur place. Et pas de répit dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga. Plus au sud, dans le territoire de Fizi, les combats se sont intensifiés ces derniers jours dans plusieurs villages des hauts plateaux, notamment à Miné dans les environs du territoire de Mwenga. Ces affrontements ont été rapportés dans des villages autour de Minemwe à la suite notamment des frappes aériennes attribuées aux forces armées de la RDC et leurs alliés burundais, appuyés par des combattants Wazalendo contre des positions des éléments Tuaneo alliés à l'AFC M23. Les combats ont été d'une forte intensité à Mikenge en secteur d'Itombwe en territoire de Mwenga, ainsi qu'à Bidego et Lumba, deux villages environnant Minemwe. Pour la journée du mardi 24 février, des sources locales rapportent la poursuite des combats autour de Mulima et Mkoko, deux entités stratégiques donnant accès à l'axe Mwenga. Sur le terrain,
La situation demeure incertaine et les populations restent confrontées à une crise humanitaire de plus en plus préoccupante, selon des acteurs de la société civile dans la zone. Et parlant de ces affrontements, disons qu'ils sont rapportés également au Nord Kivu, principalement dans le territoire de Masisi. À ce sujet, l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, informe l'opinion national et international que le régime de Kinshasa délibérément bafoue les cessez-le-feu et a imposé une guerre totale à la FSM-23 faisant de leurs soldats et des populations civiles la cible principale de ces drones en dehors des lignes de front. Ces violations, je cite le contenu du communiqué, flagrantes ont coûté la vie à l'un de nos officiers supérieurs de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, le colonel Willy Ngoma tombé le 24 février 2026 et continue d'ôter la vie à de nombreux compatriotes innocents. Ces crimes ne passeront ni inaperçus ni impunis. La mémoire des victimes nous oblige et engage notre responsabilité collective. Ces crimes ne resteront pas sans conséquences. Notre devoir est de garantir la protection de nos populations ainsi que nos soldats sur toute l'étendue du territoire libéré. Fait savoir le communiqué signé hier, samedi 28 février 2026, par Lawrence Kanyuka, qui est chef de département de la communication de l'Alliance Fleuve Congo AFC. Il faut signaler que ces affrontements surviennent au lendemain du démarrage du cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur le 18 février dernier à partir de midi, mais aujourd'hui qui vole en éclats. Pour en parler, nous recevons dans ce studio Emmanuel Benguea, qui est acteur de la société civile au Sud Kivu. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, cher Expedi Kialou. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Maendeleo. Je dis également bonjour aux co-débatteurs avec qui nous sommes autour de cette table.
Nous recevons le docteur Joseph Baraka, qui est directeur de l'Institut Patrice Emery Lumumba, analyste sociopolitique. Joseph, bonjour et bienvenue.
Bonjour. Bonjour aux auditeurs et auditrices et bon dimanche.
Nous recevons Dany Bachigé, qui est du département de la communication de l'AFC M23 dans la province du Sud Kivu, principalement au gouvernorat de province. Dany Bachigé, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Expedi, mais il y a quelques correctifs avant de commencer l'émission. Je serai confirmé du département de communication de notre mouvement dans les jours à venir.
Ah, ok.
Je suis cadre.
Vous êtes cadre du mouvement.
Je suis cadre du mouvement. Merci beaucoup pour l'invitation et salut aux amis avec qui nous allons partager cette émission.
Bien évidemment, le monde vole aussi en éclat avec la guerre qui a éclaté entre les États-Unis et l'Iran et avec le concours d'Israël. Nous y reviendrons juste au terme de cette partie consacrée justement à la violation du cessez-le-feu mise en œuvre avec l'accompagnement ou le concours de l'Union africaine et l'Angola. Emmanuel Benguea, acteur social au Sud Kivu, quelle est la réalité du terrain dont vous disposez à cette heure précise?
Merci beaucoup, cher Expedi. Laissez-moi d'abord dire Paul et à toute la population de la province de Sud Kivu, et plus particulièrement celle qui vit dans les territoires où il y a la guerre. Cependant, nous sommes au regret de constater que depuis le 21 février 2025, la résolution 2773 a été adoptée par les Nations Unies. Et c'est cette résolution 2773 qui a demandé à ce que les belligérants puissent mettre fin aux hostilités qui ne cessent d'endeuiller, n'est-ce pas, nos populations. Maintenant, aujourd'hui, si vous regardez très bien, le 21 février du mois dernier, on a totalisé une année que les Nations Unies a demandé et a exigé à ce que les hostilités soient arrêtées dans les zones où il y a la guerre. Mais si vous regardez aujourd'hui, une année après, et du côté du gouvernement, s'il faut parler des FARDC et Wazalendo, du côté de l'AFC, on ne cesse malheureusement d'enregistrer les cas de violation des droits de l'homme dans les territoires concernés. Vous venez de brosser un tableau sombre qui ramasse ce qui se passe, que ce soit dans les Nord Kivu, dans les Sud Kivu. Ce sont là les cas qui croient ou qui laissent à croire dans l'opinion publique que le cessez-le-feu continue d'être violé. Et donc, si vous regardez les cas qui se passent, que ce soit ici à Kabare, à côté, que ce soit à Kalehe, c'est chaque jour qu'il y a déplacement de la population, c'est chaque jour qu'il y a des attaques des hommes qu'on appelle des hommes non autrement identifiés, des hommes armés, c'est chaque jour qu'il y a des attaques entre les AFC-M23 et le groupe Ouazalendo. Vous venez de parler des cas de Katasomwa à Kalehe, de Bouchakou toujours là. Vous venez de parler des cas de Kahungu, nous sommes dans le groupement de Rambi, et Katana dans le territoire de Kabare. Vous venez de parler également de ce qui se passe à Mwenga, où également les droits de l'homme sont violés. Et donc si vous pouvez prendre tout ça, vous allez comprendre que les problèmes jusque-là restent à déplorer. Et c'est pourquoi la société civile, les acteurs sociaux ne cessent de dénoncer et de demander à ce que le belligérant puisse cesser la guerre, parce que la population souffre et la population a besoin d'un soulagement. Et c'est pourquoi chaque fois qu'il y a des rencontres qui appellent les uns et les autres à respecter ce cessez-le-feu, la population croit à l'avenir de la paix durable dans notre pays. Malheureusement, ce qui s'observe est que en dehors des zones qui sont occupées par l'AFC-M23, nous enregistrons également des cas de violation des droits de l'homme. Dans les zones où l'AFC contrôle également, même chose, finalement, on se demande, la population doit retrouver la paix sur quel canal, auprès de qui, finalement, la population doit retrouver la paix. Et c'est pourquoi, si vous regardez très bien, vous avez parlé, il y a des faits collatéraux, malheureusement, qui sont enregistrés pendant que la guerre continue. Si vous allez un peu loin dans les groupements de Kalima, nous sommes dans les territoires de Kalehe, il y a plus de 60 écoles qui n'ont jamais ouvert les portes. Ça montre combien de fois même les droits des enfants sur la scolarité sont violés. Si vous allez un peu loin dans les groupements de Luhago, nous sommes dans la chefferie des Ninja Kabare également. Aucune école n'a jamais ouvert ses portes. Donc il y a des problèmes jusque-là. Et bientôt l'année...
Au-delà de perturbations sur le calendrier scolaire, il y a également mort d'hommes. Il y a des civils qui perdent la vie dans ces affrontements. Oui. Les populations vivent perpétuellement désormais aujourd'hui en déplacement. Certaines populations ont du mal à accéder aux soins de santé primaire. Voilà, les hôpitaux sont pillés au jour le jour. Voilà. Les hôpitaux et centres de santé. Les structures sanitaires sont même privées d'intrants et médicaments. Donc la situation et la crise se généralise et accentue la souffrance de la population. Dany Bachigué, je reviendrai vers vous dans peu de temps. Dany Bachigué, pourquoi cessez-le-feu? Ce n'est pas la première fois, bien évidemment, qu'il est décrété, mais ce énième cessez-le-feu décrété par l'Angola vole en éclats quelques heures après son entrée en vigueur.
Bon, l'ami Emmanuel Benguer a commencé sur la question de l'accord cadre, qui est toujours violenté par Chilombo. Il est dans ses œuvres de tous les jours. Et aujourd'hui, on est sur la question de l'Angolais, le président angolais, qui, en fait, le processus est toujours violé par le commandant suprême, qui est M. Chilombo, le commandant suprême de Clochard, comme il a toujours l'habitude de le qualifier lui-même. Et ça nous met vraiment mal à l'aise. Donc, au sein du mouvement AF-123 Twirwaneho, on est vraiment engagé. Nous voulons la paix. Parce que ce sont les vies humaines que nous perdons chaque jour. Ce sont les mamans, les enfants, les personnes de troisième âge qui sont dans les brousses partout et chaque jour. Je ne sais pas si Chilombo, il est vraiment en paix quand il voit tout ça. Mais bon, étant habitué au détournement des millions, il festoie partout au monde, dans des grandes villes. Je crois que les problèmes du Congo ne lui disent rien. Vous voulez que maintenant nous, on se comporte comment? Aujourd'hui, son mode opératoire, ce sont les bombardements, partout. Allez dans les Massissi. Ils bombardent, même là où il y a des populations civiles, ils bombardent. Que ce soit là où il y a des militaires, ils bombardent. Allez dans les Minembwe, n'en parlons pas. Ils tirent les Banyamulenge comme on écrasait les mouches. Si vous allez dans les Beni, dans les Massissi, Rutshuru, partout, c'est la même chose. Vous voulez que nous, on se comporte comment? Et nous, nous pensons que les Nations Unies, en commençant par Doha, jusqu'au niveau de l'Angola, ils devraient tirer les conséquences de ce mauvais comportement de Chilombo. L'ami Emmanuel Benguela, disons Emmanuel Benguela, n'est-ce pas? Il venait de parler des situations d'ici à côté de nous, pour ne pas parler de Rutshuru, pour ne pas parler de Massissi, parce que c'est un peu loin d'ici chez nous. Mais si vous allez dans les Kabare ici, tout proche, chers amis, Chilombo extermine sa propre population. Parce que s'il se prenait pour un président sérieux...
Autant l'extermination est imputée au régime de Kinshasa, autant il l'est pour l'AFCM-23, malheureusement, Dany Bashik.
Quand il arme, les Wazalendo ici et là, parce que ce sont eux qui causent tout cela. Ce sont les Wazalendo qui viennent, qui provoquent.
Ils sont nés, Dany, du fait de la guerre. Donc, et une guerre suppose plusieurs parties.
Et Chilombo en profite pour les armer davantage. Ce sont des civils que lui-même a armés. Est-ce que vous imaginez d'un comportement d'un civil armé et qui est dans une situation telle que nous vivons dans cette république où les gens n'ont presque rien pendant que nous sommes dans un pays extrêmement riche. Leur réflexe est facile. Ils pensent qu'avec ces armes qu'ils ont provenant de Chilombo, ils peuvent s'approprier tous les carrés miniers ici, ils peuvent piller la population, ils peuvent tirer sur les individus comme ils veulent pour enfin se faire les moyens. Donc, il est s'il a azote, il y a quoi cop, quoi haut. Wanaifanya cop et tout ça c'est Chilombo. Si Chilombo était un homme sérieux, ce n'est pas comme ça qu'il devait se comporter.
Si je comprends bien, Dany Bashige, vous imputez la violation du cessez-le-feu au régime de Kinshasa en premier lieu.
Et ça, vous connaissez vous-même. C'est connu mondialement que c'est lui qui viole.
Merci beaucoup.
C'est lui.
Merci.
Prenez seulement les cas d'Ouvira ici.
Parce que l'émission de ce jour traite de la question essentiellement de la violation du cessez-le-feu. Nous ne parlons pas de ce qui s'est passé avant, mais nous voulons savoir qu'est-ce qui a provoqué cette violation du cessez-le-feu. À votre avis, qu'est-ce qui a fondé cette attitude que vous qualifiez de méchante de la part du régime de Kinshasa au lendemain de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu?
Moi, je crois que c'est une question de manque. Est-ce que vous allez me tolérer les termes? Je crois qu'il y a une question de manque d'intelligence.
Utilisez quand même un terme courtois pour nous permettre d'échanger.
Il y a manque de responsabilité. Du président Chilombo. Parce que peut-être c'est ça le terme que vous voulez que j'utilise. Parce qu'il était sérieux, il ne se comporterait pas ainsi. Nous avons déjà prouvé à quel niveau nous sommes animés d'une très bonne volonté pour pouvoir échanger avec lui. Mais vous comprenez vous-même là où il nous amène. Et nous sommes sûrs. D'ailleurs, son comportement lui-même prouve à suffisance qu'il ne sera pas capable de gagner cette guerre. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués. Vous connaissez un chien enragé. Quand vous êtes en face d'un chien enragé, il se comporte je ne sais pas de quelle manière. Je crois que les grands responsables de cette république, parce que vous voudriez que j'utilise des termes plus courtois, ils semblent être dépassés par la situation et par conséquent ils se comportent comme tels.
Voilà, Joseph, quelle analyse faites-vous de cette violation, une énième violation du cessez-le-feu? Pourtant nous avons vu quand même que les acteurs étaient engagés sur cette voie plusieurs fois. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, à qui on impute cette violation du cessez-le-feu, s'est déplacé à maintes reprises pour Luanda, en Angola, rencontrer son homologue João Lourenço. João Lourenço qui a saisi même la FCM-23, qui a aussi en retour a répliqué en demandant des éclaircissements sur l'issue des négociations de Doha. Au Qatar, à un moment, les activités ont repris entre les deux parties à Doha. Après, il était prévu que le cessez-le-feu entre en vigueur le 18 février à partir de midi. L'AFCM 23 produit un communiqué annonçant qu'il allait se conformer à cette formalité-là. Et après, on a constaté que les hostilités ont repris partout. Que ce soit au Nord Kivu, dans le territoire de Masisi, où il y a eu mort d'hommes, et ce territoire a attiré plus l'attention de la communauté, c'est par la fulgurance des affrontements autour de la mine des Rubaya, une fulgurance qui a provoqué même la mort d'un des commandants de l'AFC-M23, une voix populaire de ce mouvement depuis la brousse, en la personne du colonel Willy Ngoma. Quelle analyse faites-vous à ce stade de la situation, de la reprise des hostilités au lendemain de la signature ou du décret de ce cessez-le-feu, Joseph?
Alors, merci pour la question, merci pour les avis déjà donnés. Quelle analyse? Tout part du fait que les deux parties concernées, ça veut dire le gouvernement congolais, que le mouvement M23 appelle régime congolais, et le mouvement lui-même, qui est pour le gouvernement congolais une rébellion d'agression, tout part du fait que les deux parties jouent des cartes dont ils ne contrôlent pas l'implication, la teneur ou l'implication. Ça veut dire que le gouvernement congolais, de son côté, a tout misé sur l'accord de Washington en espérant qu'en donnant l'accès aux ressources congolaises à la partie américaine, cette partie américaine mettrait la pression à ceux qui tirent du côté du mouvement M23 ou ceux qui rendent possible la force du M23. Tout le monde comprend ce que je veux dire.
Vous parlez du Rwanda, bien évidemment.
Je parle du Rwanda et des forces qui le rendent tout cela possible. Et cela n'a pas été obtenu. Ça veut dire que Le maître du jeu du côté occidental, il a promis une chose, visiblement. En tout cas, là, j'ai fait une analyse stricte et lucide. Il a promis une chose qu'il n'a pas tout de suite tenue. N'oublions pas que, on a dit récemment que la première monture de l'accord que les Américains avaient proposé au gouvernement congolais n'impliquait pas les questions sécuritaires, la pression sur les parties prenantes, ainsi de suite. Ce n'est que tard que le gouvernement congolais a négocié ça. Je pense que nous avons lu tout ça. Et en tout cas, la grande partie, on a vu comment est-ce que Félix, en venant de Washington, a célébré que la guerre était finie. Ça veut dire qu'il misait vraiment sur cela et tous les espoirs étaient fondés sur ça. Comme il n'a pas obtenu gain de cause, et surtout que parmi les choses qu'il a mises sur la table, il y a la mine de Rubaya que les Américains pourraient d'une manière ou d'une autre contrôler, et tout cela n'a pas été obtenu. Donc il faut qu'il récupère par la guerre certaines choses qu'il n'a pas su obtenir par la paix. Maintenant, ça c'est du côté du gouvernement congolais. Mais du côté du mouvement aussi, ce serait peut-être faux ou mentir à soi-même et tenter de mentir à la population, prétendre que il y a la volonté d'un côté et non de l'autre côté. Je rappelle que la prise d'Ouvira a été faite après l'accord de Washington où les parties prenantes, en tout cas les tireurs de ficelles étaient présents, et pourtant ils ont tenté d'aller, ils ont mis la pression sur Ouvira et l'ont pris, et que le retrait de là, c'est vrai, on peut nous dire ici que c'était seulement une volonté de l'acteur du mouvement, mais on sait tous, hein, en tout cas, apprenons quand même à nous dire la vérité, c'est la plus simple des choses, on sait tous qu'il y a eu une pression occidentale,
Marco Rubio
et les autres pour dire attention, il faut pas attention. Donc on comprend que même les cessez-le-feu, s'il serait signé, si les gens, s'il n'y avait pas cette pression, la guerre aurait continuer. Donc dire qu'il y a un camp qui respecte les cessez-le-feu, c'est se mentir à soi-même et tenter de mentir à la population.
Pour la question de la violation du cessez-le-feu actuel, donc on peut l'imputer au régime de Kinshasa ou disons au gouvernement de la RDC, mais qu'il faut rappeler qu'il y a eu violation du cessez-le-feu dans le passé, au mois de décembre dernier, au lendemain de l'intérimement de l'accord
de Washington, par l'AFC-M23,
à la prise de la ville d'Ouvira.
Tout à fait.
Donc toutes les parties sont responsables à un moment du temps du, et
tout
de
à ce fait. Et la grande chose, la responsabilité incombe à quoi? C'est parce que la question n'est pas à qui mais à quoi, et c'est au fait qu'ils n'ont pas confiance les uns envers les autres. Il n'y a pas une seule partie qui va négocier en toute bonne volonté. Du moins, je parle comme population dans la continuité de Emmanuel, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une seule partie ici qui priorise d'abord et avant tout la population et qui voudrait que on retrouve la paix. Chacun veut gagner par chaos, par l'autre pour ramasser tout ce qu'il peut et tous, on sait tous que si tout ça aurait continué, on a vu des gens déclarer une nouvelle république ici, on a vu des gens dire des choses qui peut-être n'étaient pas tout de suite en accord avec la volonté de la population s'il fallait questionner la population. On a vu le pouvoir de Kinshasa dire, j'ai vu quelqu'un dire, bon, que ça prenne des années ou deux années, nous on garde notre ligne, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que les gens s'asseyent, se parlent en bonne volonté et prennent des décisions fermes pour qu'on avance. Et c'est ça, donc la crise de la confiance, et tout ça c'est lié au fait que chacun tente de miser ce qu'il gagnera par chaos auprès de l'autre. Pour finir, je rappelle que j'ai vu que certains, c'était une grande, en tout cas les grandes figures de ce conflit se sont rencontrées par exemple avec l'AIPAC aux États-Unis. D'autres tentent encore de se remettre comme acteurs du jeu régional, du moins dans ces basculements que subit le monde. Donc, si à la base on nous dit que je ne souhaite pas que notre population pense que ces conflits se jouent seulement entre deux personnes qui cherchent l'un à bombarder, l'autre à ne pas bombarder, il y a des très grands enjeux internationaux, en tout cas je suis en train de conclure, des très grands enjeux internationaux, et les tireurs des ficelles de ces histoires là-bas, eux, ils veulent jouer par chaos. Donc les États-Unis suivent contre la Chine, elle s'était, parce qu'elle a déjà des intérêts établis, tant que tout cela n'est pas gagné, tant qu'on n'a pas d'assurance, il y a des gens qui, par exemple, ont ouvert des corridors, ou qui ont misé toute leur croissance sur ce qu'ils vont obtenir au Congo, et qui peut-être ne l'ont pas encore, donc on ne peut pas dire que c'est entre moi et Danny Banza. Danny Bashige.
Merci. Et à ce sujet, comment vous entrevoyez la suite du processus tendant à ramener la paix? Il y a cette violation du cessez-le-feu, malgré les accords signés, d'abord en 2025, les points centraux du conflit n'ont pas avancé. L'accord RDC-Rwanda devrait déboucher sur des opérations conjointes contre l'FDLR et devait aboutir au retrait, par exemple, des troupes rwandaises, c'était clair. Aucune de ces deux mesures n'a été mise en œuvre, nous le voyons sur le terrain. Le mécanisme conjoint des coordinations de la sécurité ne s'est pas réuni depuis novembre. À Doha, seul un protocole sur les cessez-le-feu, mais violé à de nombreuses reprises, et un autre sur l'échange des prisonniers politiques ont été signés, sans mise en œuvre effective. Les questions des fonds, notamment, par exemple, les questions de gouvernance, l'avenir du M23, le retour des réfugiés, n'ont pas encore été abordées. Dans ce contexte, la reprise des combats ici au sud Kivu et à Massissi et l'intensification de la guerre des drones ne constituent pas un incident isolé. Mais quelle peut être la place de ces incidents sur la suite du processus? À un moment, les gens pensaient qu'on était sur une bonne piste, mais visiblement, tout vole en éclat et tout part en vrille.
La dernière fois quand on était ici, on avait dit que il fallait faire attention par rapport à ce qui était promis, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient se faire en amont. Nous avions souligné aussi que pour qu'un dialogue arrive à des fruits espérés, il y a deux choses qui doivent être en jeu. Soit la confiance ou la bonne volonté que se font les uns les autres. et la bonne volonté des uns des autres et la confiance qui résulte de ça. Et je ne sais pas tout de suite dire quels sont les indicateurs objectifs que je peux voir d'un côté ou l'autre qui a vraiment la bonne volonté et la confiance, pour qui va impliquer la confiance que la population peut mettre dans ces acteurs là-bas. Et si ce n'est pas le cas, alors il faut que les négociateurs, l'intermédiaire entre les deux parties, ait la possibilité de peser lourdement sur les deux parties en conflit. Donc, quel avenir on aurait dans ça? On aurait un avenir, et tout ça aurait déjà fini, si les négociateurs, qui est capable d'imposer aux deux parties une attitude
une implication point sur la table en invitant les parties à taire les armes,
comme
les États-Unis l'ont fait
comme
avec
l'ont
la
fait.
Partie sud.
Tout à fait.
Malheureusement, visiblement, les deux parties n'ont pas du respect à l'endroit de la sagesse de João Lourenço.
Oui,
et aujourd'hui,
tout à fait. Donc, João Lourenço, c'est d'ailleurs pour cela que le processus de Nairobi n'avait pas abouti. C'est la même raison pour laquelle le processus de Luanda n'avait pas abouti. Et peut-être l'Union africaine aussi aura du mal parce qu'ils ne peuvent pas imposer leur volonté aux deux parties qui sont en conflit. Donc, d'abord, il faut espérer que les Américains puissent, et est-ce qu'on va continuer à donner notre avenir, à laisser entre les mains des gens qui ne s'intéressent pas sur notre vie, je ne sais pas.
Donc, ça, c'est la journaliste Ariana, la journaliste angolaise, qui est accrédité à la Maison Blanche, elle a posé vendredi, vous avez suivi, une question à Trump. C'est vrai que c'était une question tranchée déjà, en disant que le Rwanda continue de violer l'accord de paix qui a été signé. Et Trump a dit que la question devait être analysée. Malheureusement, je pense que Trump a menti parce que c'était à quelques heures du début des opérations, qu'il devait lui-même commander les opérations qui ont lancé l'attaque sur l'Iran.
Et effectivement, et je rappelle que la question de la bonne volonté, s'il faut que on la tienne en compte là-bas, celui qui pourrait mettre la pression sur cette question. Quand on dit, par exemple, que Lindsey Graham, on a voulu faire des sanctions sur le Rwanda, et puis le Rwanda a appelé aux États-Unis, le Congrès américain, pour qu'on bloque ces sanctions là-bas. Vous avez lu ça. J'espère que vous aussi avez lu ça. Et que les sanctions ont été bloquées. Vous voyez que, donc, on a la possibilité d'arrêter ce conflit, mais on tourne autour du pot parce que certains intérêts ne sont pas encore garantis. L'autre possibilité de mettre ça, c'est la pression de la société civile. Si la société civile congolaise, ça veut dire nous, la population, c'est dire on est fatigué et on va mettre la pression sur toutes les parties. Et au niveau du mouvement, et au niveau du gouvernement congolais, pour que vous puissiez vous asseoir, vous nous foutez la paix, hein, parce que et le gouvernement congolais a la possibilité de vous approcher, et vous l'approchez, si nous, peut-être, nous vous mettons la pression comme population. L'autre possibilité, c'est qu'un camp gagne. L'AFC-M23 gagne par coup de poing, n'est-ce pas? Ou alors le gouvernement congolais, par ses forces, ainsi de suite, met suffisamment de la pression de sorte que on arrive à une option. Ou alors toutes les deux parties se disent, bon, alors on s'est suffisamment battu, ça, c'est pas donc la population qui met pression, mais on s'est dit juste par un éclat de lumière comme ça, on s'est dit les acteurs trouvent un compromis. Donc, ce sont là les trois options. Je ne sais pas garantir les quatre options. Je ne sais pas garantir tout de suite, par exemple, quelle est la route, puisque je ne connais ni la bonne volonté de Zin, ni la bonne volonté du négociateur, du parrain des accords qui sont signés, et les parrains africains ne sont pas suffisamment forts pour imposer la bonne volonté, pour imposer les choses aux parties prenantes, et tout le monde continue à jouer sa carte pour voir s'il en sortira gagnant.
Dany Bachig, pourquoi vous semblez ne pas respecter la médiation africaine? Visiblement, c'est depuis les débuts de la crise que tel a été remarqué. Pourtant, quand les États-Unis ont levé juste le doigt en décembre dernier, on a senti que les lignes ont bougé vite fait.
Ce n'est pas que nous, on ne respecte pas la médiation africaine. Nous respectons. Mais le mal est que nous avons en face de nous un interlocuteur, mais il faut dire, notre partenaire n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux en ce sens que, bon, l'ami docteur Baraka, avec tout le respect que je lui dois, vous avez compris comment il a introduit. C'est-à-dire, quand Chilombo était rentré des États-Unis, il était venu avec triomphalisme, pensant que diplomatiquement, il avait déjà gagné, n'est-ce pas? Et évidemment, comme vous m'avez empêché d'utiliser des termes lourds, on fait de notre mieux pour être sérieux, effectivement, parce que nous sommes dans une émission beaucoup respectée et puis beaucoup suivie, non seulement ici au Sud Kivu, mais presque partout au monde, nous devons donc être sérieux. Donc Chilombo était rentré en position presque de force des États-Unis. Il était venu, il pensait que bon, ça devait être de manière automatique, oubliant que cette paix qu'il négociait avec les Américains, il devait l'obtenir par échange. Il est arrivé à vendre même aux États-Unis ce qu'il n'avait pas. Prenons le cas de Rubaya. C'est aussi ça. Parce que quand on n'est pas aussi très intelligent, des fois on négocie mal. Vous allez donner quelque chose pendant je ne sais pas autant d'années pour que vous n'avez même pas, tu comprends le degré de manque de sérieuxité. Et ce qui allait l'aider pour obtenir cette paix, qui ne mérite pas, ils ont compris que ben, il nous a même vendu divan. Vous voulez qu'il se comporte comment? Et vous avez parlé d'une journaliste, Ariana, qui a posé la question à Trump la fois passée. C'est ça. Trump lui-même, il a des problèmes chez lui. Vous voulez qu'il s'occupe des questions d'un homme moins sérieux pendant que chez lui ça ne va pas. Et donc, il faut comprendre que Chilombo est vraiment dans une situation difficile, mais nous continuons à respecter les accords, nous continuons à respecter, parce que je peux même poser la question au docteur ici présent, comment il peut dire que de part et d'autre, on ne respecte pas de cesser le fait. Nous, on montre des preuves, mais c'est lui qui nous provoque. Vous avez entendu où nous avons attaqué, si ce n'est pas lui. Quand lui nous attaque, il tue les populations civiles dans des endroits que nous contrôlons. Et si nous sommes des responsables, vous voulez qu'on se comporte comment? On doit nécessairement répliquer. Et si on ne le fait pas, cette population va nous prendre pour qui? Il va nous prendre pour qui? Bon, et donc, moi je crois que... parce que apparemment vous ne vouliez même pas que je parle de la question d'Ouvira.
Non, vous pouvez parler. Parlons de la violation du cessez-le-feu la toute dernière. Si vous avez la possibilité d'évoquer l'avant-dernière,
je viens de parler.
Tant
de
mieux.
Je viens de parler de la toute dernière.
Un peu de mots si l'avant-dernière et après on revient sur la toute dernière.
Mais si on peut pousser un peu loin la réflexion. Les cas d'Ouvira. Nous, bon, les négociateurs nous avaient demandé de libérer Ouvira pour qu'on trouve une solution par rapport aux réfugiés et que le militaire burundais qui était en difficulté en RDC, dans les parties que nous contrôlons, puisse rentrer chez eux. On avait fait la preuve de bonne volonté, effectivement. Mais quel a été le comportement ou quel avait été le comportement de Chilombo et ses hommes? Vite, là, ils sont venus et ils ont proclamé la victoire comme s'ils y entraient. Mais des fois, il faut avoir honte. Il y a un papa comme toi. Toi, tu n'es pas dans ta chambre. Lui, il vient, il passe nuit dans ta chambre. Je ne veux pas utiliser les termes lourds. Mais bon, dans l'entretemps, tu es à l'extérieur en train de crier. Il termine ses affaires, il quitte ta chambre, il part. Et toi, tu entres encore dans ta chambre là, avec trop de bruit, comme quoi tu rentres chez toi avec force. Quelle force? Et tu es quel type d'homme? Et donc, nous, on l'a prouvé encore à Ouvira. Vous avez vu comment ils se sont mécomportés. Et nous vous disons que comme ils continuent à violenter, à violer et à violenter les accords, ils continuent à tuer, ils continuent à bombarder partout, comme je venais de citer Minembwe, Masisi, Rutshuru, partout. Nous allons nous prendre en charge. Nous ne pouvons pas accepter. Et d'ailleurs, je devais demander à toute la jeunesse congolaise qu'il est temps de récupérer cette situation. Faire cette révolution d'une révolution populaire. Donc, que tout le monde fasse de cette guerre la sienne.
À ce stade, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une bonne foi de l'AFC-M23 ou peut-être d'une amélioration des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo qui vous place dans une posture fragile désormais, parce qu'on signale que ce sont les drones qui parlent désormais, ce sont les équipements à haute pointe qui sont utilisés, que ce soit à Minembwe comme dans le Masisi, où on annonce que le colonel Willy Ngoma a été abattu par voie de drone.
Nous devons reconnaître que c'est une perte. La mort de Willy Ngoma, c'est une perte.
C'est déjà confirmé, ce n'est plus...
Vous venez de lire vous-même...
Ce n'est plus une rumeur,
vous-même,
c'est déjà confirmé par l'AFSAM 23.
Vous-même, vous venez de lire les communiqués, je connais vos capacités de recherche. Nous connaissons toute la population à confiance à la radio Maïndélé. Quand elle dit quelque chose, donc c'est déjà vérifié. Moi, je crois que les phares d'essai avec Chilombo, ils ne sont pas en position de force. Les drones qu'ils utilisent aujourd'hui, oui, le gouvernement congolais, ils les utilisent pour tuer beaucoup plus la population congolaise. Et nous prenons cette même population en témoin. Mais essaye un peu de vous informer qu'est-ce qui se passe sur les lignes de front du côté de Rutshuru, du côté de Masisi. Essaye un peu de vous informer.
Nous avons appris que l'AFSAM 23 a récupéré certains villages
et nous
dans le Masisi.
Et nous continuons. Cet homme-là n'a pas la force. Je vous dis, Chilombo n'a pas la force. Je vous ai donné l'exemple d'un chien enragé. Je vous ai donné cet exemple. Ce n'est pas pour rien. Je vous... Et pour votre information, nous vous donnons 2 semaines. Il va encore crier partout, comme il a échoué aux États-Unis. Je ne sais pas par où il va encore aller, je ne sais pas quelle force il aura, mais je vous donne 2 semaines, il va crier même dans la langue maternelle de sa mère.
Merci beaucoup.
Alors, une petite parenthèse, pour répondre à une question qui m'a été faite, je pense qu'il faut souligner que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Donc on ne va pas jouer aux vierges effarouchées pour dire que bon voilà, il y a maintenant qu'à un instant T que ça a commencé et que c'est l'un qui est mauvais et l'autre, c'est pas noir et blanc. Donc c'est tout un processus et c'est le processus là-bas qu'on suit pour savoir à partir de quoi évaluer la bonne volonté des uns et des autres. Merci.
Emmanuel, le docteur a évoqué certaines pistes qui peuvent nous sortir du pétrin, notamment la capacité du médiateur d'imposer le cessez-le-feu, la responsabilité de vous, acteurs de la société civile, une campagne par exemple de mobilisation, ça suppose la participation essentielle de la société civile, ou soit que les deux parties décident d'abandonner carrément la guerre, ou que l'une d'elles arrive à s'imposer par voie militaire et consort. Mais pour vous, quelle issue accordez-vous aux initiatives de paix en cours, par exemple notamment l'initiative mise en œuvre, activée par l'Union africaine à travers une architecture et un médiateur désigné pour la cause. À côté de l'Union africaine, il y a par exemple l'initiative de Doha au Qatar qui, Joseph va corroborer mon propos, va partir en vrille avec la situation aujourd'hui dans le Golfe, dans le Moyen-Orient. Au-delà de cela, il y a par exemple l'initiative de Washington qui reste en cours aussi. Oui. Donc il faut qu'on arrive à mettre en œuvre ce qui a été signé à Washington. Quel avenir accordez-vous à ces différents processus de paix, Emmanuel, en rappelant qu'à l'interne, il y a aussi une initiative portée par les églises, à savoir la FACO et l'FCC, mais qui ne semblent pas rencontrer la volonté du pouvoir en place.
Merci beaucoup, Expedi. D'ailleurs, quel avenir accorder à ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit à Doha, Washington, en Afrique, même la CENCO, nous sommes localement au pays. Mais laissez-moi d'abord vous dire que, après que Washington a amené les deux parties, parce qu'aujourd'hui, jusque-là, il faut retenir qu'il s'agit des deux parties. Parce que jusque-là, le peuple congolais n'a jamais pris part à ces assises. Tout ce qui se passe, on ne voit que le gouvernement congolais et l'AFC-M23. Donc le peuple jusque-là...
Et à certains égards, le Rwanda.
Voilà. Donc jusque-là, le peuple congolais n'est ni loué ni près associé à ce débat.
Que ce soit Washington,
que ce soit Doha. Donc le peuple
au niveau de l'Union africaine
est catégoriquement...
Civile, le peuple n'a pas encore été associé, ni les parlements, ni les structures citoyennes.
Donc, bien écarté. Et c'est pourquoi, quand on demande de donner les arguments en rapport avec l'avenir accordé à ces assises, à ces processus de paix qui sont en cours, en dehors de ce que nous pouvons appeler que nous avons la paix au ventre, nous n'avons pas un autre argument. Pourquoi nous avons la paix?
Donc c'est vous ne croyez pas en ces différents processus?
Il y a l'espoir. Il y avait déjà un espoir. Parce que nous, on savait que l'état que ça a pris, que ça a traîné, c'est dans cet état aussi, ça permet à ce que nous qui étions écartés, de profiter de ce moment pour poser quand même des questions. Il y avait déjà cet espoir-là. Mais actuellement, où vont les choses, ça montre déjà qu'il n'y a pas un avenir. Pourquoi? Vous savez qu'après la résolution que j'ai parlé, la résolution 2673, des Nations Unies qui a exigé aux belligérants de respecter le cessez-le-feu, les Nations Unies ont encore accordé le mandat à la MONUSCO à travers la résolution 2808 de faire, c'est-à-dire de coordonner en permanence le cessez-le-feu. Et laissez-moi vous dire que je crois que c'était le 12 février de cette année que la chef de la MONUSCO, Madame Viviane Van de Perre, était à Kinshasa et ensuite a fait une mission à Goma. Et c'était dans le cadre de surveiller, de superviser si le cessez-le-feu est respecté. Malheureusement, la question que l'on doit se poser, parce que la femme était aussi ferme, elle n'était pas très claire, on ne savait pas quel était l'objectif de sa mission. Bien que nous savons que la MONUSCO a ce mandat-là de soutenir la mise en œuvre du cessez-le-feu dans les zones où il y a la guerre.
Et je rappelle qu'au courant de la semaine, oui. Une mission conjointe, MONUSCO, CIRGL, s'est déployée à Ouvira et même à Goma,
oui,
pour les travaux préliminaires de la mise en œuvre du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu.
Oui.
Cette mission conjointe a consulté les différents acteurs, les gouvernants de la partie sud, les gouvernants, oui, du Nord Kivu, les acteurs sociaux, les structures sanitaires, oui, les églises, pratiquement toutes les parties prenantes pour étudier les mécanismes de mise en œuvre de la surveillance du cessez-le-feu.
Du cessez-le-feu. Voilà. D'ailleurs, la question que l'on se pose régulièrement, c'est quoi? Chaque fois qu'il y a une initiative, que ce soit à Washington, à Doha, au pays, il y a toujours les hostilités qui recommencent. Vous pouvez vous demander, dans moins de 20 jours, la chef de la MONUSCO était à Kinshasa, à Goma, après une autre délégation à Ouvira, et dans ce délai-là, il y a toujours des combats partout, que ce soit au nord et au sud qui vous. Maintenant, vous avez posé la question sur l'avenir, parce qu'aujourd'hui, l'austérité civile dans toute sa diversité, et les peuples congolais, lorsque la CENCO-SCC avait commencé, avait proposé le pacte social, nous, on avait déjà cette confiance, parce que si vous le lisez très bien, c'est un document, je dirais, de plaidoyer, et qui prend toutes les lignes possibles pour que la paix soit durable dans notre pays. Malheureusement, quand vous avez essayé de les brosser un peu avec Kinshasa, on a lié une négligence du côté du gouvernement congolais, parce que pour Kinshasa, et surtout certains proches du président, ils seraient en train de qualifier la CENCO-SCC d'être du côté de l'AFC-23. C'est que nous, on a toujours condamné, parce que nous savons que si les conflits continuent à persister, c'est parce que le gouvernement congolais et certains proches du chef de l'État n'ont pas compris qu'il fallait normalement s'approprier l'initiative locale qui est initiée, n'est-ce pas, par la CENCO.
Est-ce que vous pensez que cette initiative peut contraindre le Rwanda, qui est annoncé comme partie prenante dans la crise, peut contraindre aussi le Rwanda? Bien sûr, c'est une initiative interne qui,
ouais,
permettrait par exemple à la CENCO de mobiliser les parties combattantes à l'interne, le gouvernement et la FCM23. Mais est-ce que le Rwanda peut subir une contrainte émanant de ce cadre-là de médiation?
Non, d'abord, vous savez que les conflits en soi, il y a les comment, il y a d'autres voies qui ont montré que les conflits seraient un conflit interne. Parce que lorsqu'on discute, on regarde d'où nous sommes venus et où nous sommes aujourd'hui, on va vous parler que même l'origine de ces conflits serait entre les individus qui sont connus par les peuples congolais, les individus qui seraient d'ailleurs maîtrisés par la CNCC. Et laissez-moi vous rappeler même que ce soit Doha ou Washington ou même l'Union africaine, et toutes ces parties prenantes, ils se sont référés, n'est-ce pas, sur le pacte social de la CNCO. Washington a validé, Doha a validé, l'Union européenne, plutôt oui, même l'Union européenne, même l'Union africaine, ils ont validé, ils se sont dit, voilà, si nous respectons ce chemin, nous pouvons aller très loin. Mais le mal est que, localement, au pays, il y a encore les suspicions. Il y a encore les suspicions, les hommes de Dieu se sont donnés corps et âme pour sauver la population en souffrance depuis plus de 30 ans aujourd'hui, mais il y a les gens qui négligent malheureusement. Maintenant, la responsabilité, notre responsabilité en tant que société civile et en tant que population, nous pensons, effectivement.
Nous reviendrons après sur cette responsabilité. Oui. À ce stade, je voudrais juste suivre votre avis sur l'appréciation ou la suite à réserver aux initiatives. Oui. J'ai bien entendu que pour vous, la bonne perspective, ça serait d'activer le pacte social initié par les évêques et les CC.
Mais aussi localement, parce que nous on pensait que pour que cela soit bien respecté au pays, normalement le gouvernement congolais, qui est aussi le premier responsable à axer pour le dialogue, allait d'abord passer un sondage. Nous croyons à ça, parce que récemment nous avions eu à saisir les parties prenantes au conflit, et nous avons pensé que le peuple congolais jusque-là étant écarté, et si on passait d'abord au sondage et demandait si le peuple congolais est d'accord de ce qui se passe, et nous on pense que le peuple congolais donnerait son avis, et c'est à partir de là que nous pouvons rentrer et débattre, parce que aujourd'hui même le gouvernement, même la FCM23, aucune de ces deux parties n'a l'espoir que demain il dira au peuple que voilà, moi j'étais du côté du peuple, voici. Non, parce qu'aujourd'hui, quand l'AFC prend l'initiative, l'AFC bien qu'il n'a pas le mandat du peuple congolais, mais n'a jamais consulté le peuple congolais avant de prendre une ou l'autre initiative. Le gouvernement congolais, qu'on dirait, même chose. Et c'est pourquoi l'on se demande, finalement, dans ce pays, nous avons quelle direction? Est-ce que nous avons la direction de déchirer ce pays? Nous avons une voie afin de mettre de côté ce qui nous divise et parler de l'avenir de la paix durable de ces pays, ou carrément nous voulons laisser la responsabilité de ces pays à l'extérieur? Parce que si vous voyez aujourd'hui ce sont l'extérieur qui décide. Quand Doha appelle, Washington appelle, et c'est tout, on croit que la paix viendrait de Washington. Pourtant, localement, si même on donnait cette question aujourd'hui qui nous divise aujourd'hui, si on appelait même des chefs coutumiers, des chefs de groupement, je vous dis, ces gens, ils constituent une sagesse qui peut nous aider à réfléchir, à intérioriser, à comprendre les causes profondes de ces conflits, parce qu'on ne peut pas aller très loin. C'est vrai, aujourd'hui, le Rwanda est cité. Nous savons, pour ceux qui ont fait les relations internationales, ils savent bien, chaque guerre, chaque conflit, il y a toujours eu le main noir de l'extérieur, il y a toujours eu les alliés. Mais si réellement les conflits restent internes, nous pensons que si les Congolais acceptent aujourd'hui, on ne cesse de citer l'ancien président Joseph Kabila, on cesse de citer l'actuel président pour les problèmes qui gangrènent aujourd'hui, on cesse de citer la FCM23. Et quand on regarde de ce qui se passe, et si on analyse à l'interne, vous allez voir que les responsables actuellement, ils sont à 90% des Congolais. Mais s'ils aiment réellement ce pays, s'ils ont l'amour de ce pays, pourquoi ne pas accepter les voies locales vocales qui viennent de la 5OSCC, les voix qui sont proposées ici et là par les acteurs de la société civile, afin de nous mettre sur une même table. C'est vrai, il y a d'autres voix qui s'opposent sur le dialogue. C'est bien, c'est de leur droit parce qu'on a déjà dialogué plusieurs fois. Mais nous, nous sommes en train de penser que cette fois-ci-là, les dialogues que nous demandons aujourd'hui, que la 5OSCC et ne cesse de demander, ça serait un dialogue de nous dépasser tout ce qu'on a déjà connu dans ce pays. Un dialogue qui ne vise pas seulement de la politique de haute toile pour que j'y m'y mette, parce que aussi c'est, on a déjà vécu ça depuis 2002 jusqu'à nos jours. Quand les gens s'appellent pour dialoguer, les gens prennent des armes et demain on dialogue pour accéder au poste de décision. Et nous pensons que ce dialogue-là dont on parle aujourd'hui, nous aurions souhaité bien évidemment que ceux qui pensent qu'ils vont dialoguer avec d'autres partis, parce que c'est ça aussi Kinshasa n'est pas prêt de dialoguer avec l'FC 23, parce que l'FC 23 a versé dit ça, c'est ça la version des proches du président actuellement. Et la question que l'on se demanderait aujourd'hui, est-ce que Kinshasa va dialoguer avec quelle autre partie? S'il y a un conflit entre l'FCM23 et Kinshasa, et si Kinshasa, parce que Kinshasa actuellement, le président a déjà fait au moins 3 voyages.
Donc Kinshasa veut dialoguer avec le Rwanda directement.
Le Rwanda.
Estimant que.
Nous Rwanda, avons un conflit le père, avec le Rwanda.
C'est comme ça que Muyaya le dit, le Rwanda c'est le père et l'AFC c'est le fils.
Non! C'est une hypothèse qu'on ne peut pas refuser. Mais après avoir dialogué avec les, n'est-ce pas que le président américain aujourd'hui réclame le prix Nobel de la paix pour avoir départagé le Rwanda et la RDC? C'est ça, sur le plan international, c'est ce qui se dit actuellement, que désormais il n'y a plus un conflit entre le Rwanda et la RDC du Congo, parce
donc
que
après, la République rwandaise, il faudra aussi gérer l'affaire AFC.
C'est ce que l'on se demande. Si déjà l'Amérique a déjà retiré sa main dans l'affaire.
A déjà fini,
c'est ça, oui.
Les combats sont toujours rapportés sur le
voilà terrain. Les résultats.
Voilà.
C'est là où maintenant l'on se demande. Laissez-moi finir un peu.
Je vais revenir vers vous, Emmanuel. On a encore du temps pour les échanges.
Oui.
Qui justement sont interactifs.
Oui.
Joseph, la place à ces différentes initiatives des PESET, vous avez insisté sur la rigueur ou la capacité du médiateur d'imposer les règles de jeu ou sa tendance au parti. Mais comment vous entrevoyez les initiatives qui restent toujours en vue? Washington, il faut la mise en œuvre. Doha, il faut poursuivre et évoluer avec la signature d'autres protocoles. Et l'Union africaine aussi, ses débats par-ci, par-là. Mais comment vous voyez la suite, ou disons l'avenir de ce processus-là?
Bon, alors, contrairement à mon frère Emmanuel qui a dit des très bonnes choses, il a quand même dit à un moment qu'il n'y avait pas d'avenir. Je pense que ce n'est pas bien de dire qu'il n'y a pas d'avenir. Nous devons dire quand même qu'il y a un avenir, mais c'est certainement qu'il dépend des choix que nous allons faire.
Ouais.
Alors, il peut être mauvais, ou il peut être heureux. Il peut être brisant, crispant, cet avenir là-bas, mais quand même il y en a un, et je pense que nous ne devions pas toujours désespérer. Je souscris en tout cas à l'essentiel de son propos, donc je vais éviter de me répéter. Je souscris à l'essentiel de son propos. Cela dit, je considère que je n'aime plus les politiciens parce que ce sont des gens qui ils voient ce qu'ils doivent faire, mais ils refusent de le faire pour des calculs, parfois je ne sais pas comment. En tout cas, une fois encore, je considère que l'AFC, je suis en zone où il faut, voilà, c'est la guerre et tout ce qu'il faut, mais je considère que ceux qui sont à Kinshasa, le gouvernement congolais a une responsabilité, et elle est laquelle? Elle est de considérer que si aujourd'hui nous allons nous asseoir en tant que Congolais, on trouve un compromis sur la question de la CENI, sur la question de la date des élections, sur la question de leur cour constitutionnel, sur la question du respect des droits des autres politiciens qu'il ne faut pas emprisonner ici et là ou rendre la vie difficile, sur la question de donc la CENI, la cour constitutionnelle,
la constitution elle-même, la loi fondamentale,
on a des gens, elle est encore toujours menacée jusque-là, il y a des gens qui disent ceci et cela. Est-ce qu'il faut vraiment, si les gens disent qu'il ne faut pas changer, ou qu'il faut réformer certaines choses et ne pas toucher à la Constitution, est-ce qu'il faut vraiment se tirer des balles pour ça? C'est à la population considérera au moment opportun s'il faut oui ou non faire cela. Je reviens sur ça parce que vous avez parlé des causes profondes. Ouais. Il faut que tous nous comprenions ces causes profondes. Il s'agit de quoi? Pour la cause interne. Et la responsabilité incombe à ceux qui s'entêtent par... Vous avez dit qu'il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Moi, je considère effectivement qu'ils sont intelligents. Mais qu'ils sont de mauvaise volonté et je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui les anime en ce moment là-bas. Donc, il y a parmi ceux qui se battent, ceux qui pensent, et moi je pense la même chose, que oui, peut-être il faut changer la Constitution, mais il ne faut pas nous dire qui peut m'empêcher, moi. Voyez un peu, par exemple, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas dire aux gens que bon, voilà, ça c'est d'une part. Mais non, de l'autre part aussi, Emmanuel l'a dit, on ne mandate personne pour qu'on arrive à s'entretuer. Des gens souffrent. Et il faut nous poser à nous la question qui sont proches de ces souffrances là-bas parfois, dans les lits d'hôpitaux ou dans des circonstances sociales, ainsi de suite. Les gens souffrent en silence. Et parfois, à un moment, ils ont envie que ça cesse immédiatement. Mais il y a d'autres qui s'entêtent. D'un autre côté, ils s'entêtent tout simplement. Donc, il va décider que Ataonichan, et qui suit Nini, et puis c'est nous qui sommes en train de pâtir de tout ça. Donc, à un moment, il faut se dire peut-être que, bon, voilà, on va sur la table de négociation, on se dit que la Cinco, on va faire preuve de bonne volonté, on va vous montrer, nous, qu'on est de bonne volonté déjà, cette population, on la laisse en paix. J'ai entendu un moment, même le président Paul Kagame le dire, on lui pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une augmentation de souffrance en RDC à Goma? Il dit oui, et il souffrait avant. Ça veut dire qu'il y a cette reconnaissance quand même que ça ne va pas. Donc, ceux qui sont acteurs, qu'ils se soient à Kinshasa, comme vous l'avez dit, ou que ce soit ici, à un moment, il faut qu'ils se rendent compte que l'avenir dépend des choix qu'ils font, parce que la question que vous m'avez posée était de la question de l'avenir, et l'avenir de cette population dépend des choix qu'ils font, et ces choix-là-bas, il faut un moment qu'ils mettent un peu de l'eau dans le vin, de leur orgueil, de leur ego, de leur ego surdimensionné. Ça, c'est au niveau interne. Et au niveau international, je trouve, là, je vais utiliser le mot maintenant que je me suis refusé à utiliser au niveau interne, je trouve qu'ils sont bêtes. Donc, non seulement ils sont animés de mauvaise volonté, mais ils sont bêtes, totalement bêtes. Des gens qui sont capables d'aller négocier, être par exemple parrain des minéraux dans la région de Grand Lac, ou aller les vendre aux Américains pour espérer qu'ils vont avoir je ne sais pas quoi, alors que entre nous-mêmes, on peut trouver cette paix, entre nous-mêmes Africains, on peut faire une intégration régionale. Et c'était proposé à un moment dans un certain milieu, c'est pour cela que je pense qu'on nous avait amené dans l'EAC, ainsi de suite. Ces minéraux auraient dû nous bénéficier en tant que nous, Congolais et Africains d'abord. Quand on voit là ce qui se passe au niveau international, et qu'on s'est dit que des leaders africains préfèrent s'entretuer entre eux, voyez un peu ce que je cherche à dire, préfèrent s'entretuer entre eux, pour que ce soit des étrangers, qui ne nous aiment même pas, les blancs ne nous aiment même pas, et peut-être qu'ils ne nous aimeront jamais, qui profitent de ça, je trouve toutes les parties prenantes pas intelligente du tout, pas intelligente. Et ils sont les ennemis premiers de la race noire qui, d'ailleurs, on voit la montée de l'extrême droite en Europe, on dit on ne veut pas des Noirs, on ne veut pas des Africains, on ne veut pas de ci. Et les Africains qui sont les premiers concernés s'entretuent entre eux parce qu'il y a des petits orgueils là-bas qui veulent jouer aux super-héros. Donc, cet avenir dépend de la compréhension aussi de la population, et c'est par là que je suis.
Les enjeux mondiaux et
quoi. Effectivement. La population doit comprendre que on ne peut pas continuer à être dirigé, et toute la population, je ne dis pas seulement congolaise, celle des Grands Lacs, et dans toutes les nations, on ne peut pas continuer à se faire diriger par des gens qui ne voient pas que notre destin collectif dépend plus de notre unité que de notre
division.
Et tous les acteurs, maintenant, ceux qui sont à la base ici, ça veut dire ceux avec qui on vit, ils ne doivent pas nous enfermer dans une bulle où, oh, tel est mauvais, l'autre est mauvais, alors que nous, ce qu'on voit, est que tout le monde est mauvais et de mauvaise volonté, ne veut pas nous aider à avancer.
Voilà. Dany Bashige, vous également, certes, vous avez promis qu'il y aurait réaction dans les deux prochaines semaines, mais l'AFC-M23, quel est son projet pour nous ramener la paix, parce que c'est l'AFC-M23 qui gouverne le Sud Kivu, une grande partie du Sud Kivu et du Nord Kivu. Donc la population du Sud Kivu aimerait savoir quand est-ce que vous allez nous amener la paix dans le territoire de Kabare, dans le territoire d'Ouvira, dans le territoire de Fizi, dans le territoire de Calais, parce que dans ces territoires, on n'y trouve plus le régime de Kinshasa ou le pouvoir central, mais on y retrouve plutôt l'administration de la FCM 23.
Bon, c'est une bonne question. Mais je dois vous dire que la réponse proviendra toujours de Chilombo. Pourquoi je le dis, c'est parce que...
Visiblement, c'est le caillou dans votre botte, le président de la République, désormais.
Mais bien sûr, c'est le caillou dans les bottes de tous les Congolais. Il faut, si on n'arrive pas à les comprendre, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on est dans quoi. Moi, je crois que c'est toujours lui, parce que, comme nous avons eu à le dire dès le début, on est disposé à dialoguer. La paix, que ce soit Ouvira, Fizi, partout comme venait de citer toutes ces contrées-là, c'est toujours lui. Donc, s'il est prêt à dialoguer, nous sommes là. Je vais vous dire que parmi les points forts de Joseph Kabila, c'était aussi le fait de faire avec tout le monde. Parce qu'il ne faut pas penser que les problèmes du Congo d'aujourd'hui commencent aujourd'hui, permettez-moi de cette tautologie. Il a si bien dit, docteur Baraka, ces problèmes ont commencé depuis très longtemps. Les problèmes de tribalisme, c'est ça Chilombo. Les problèmes de détournement de millions, c'est toujours Chilombo. Les problèmes de tuerie partout, c'est toujours Chilombo.
Parce que les problèmes ont commencé avant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu détournement même avant Chilombo. Il y a eu mauvaise gouvernance avant Chilombo.
On ne refuse pas. On ne refuse pas. Mais maintenant, lui, il est venu augmenter d'autres grands problèmes. Je prends le cas de cette distribution des armes partout dans les mains des civils. Ça va nous coûter autant d'années pour arriver à arracher toutes ces armes dans les mains de ces civils-là. Ne soyez pas étonné que demain ou après-demain, on te tue à cause de 30 cm de ta parcelle. Parce que finalement, c'est tout le monde qui possède les armes. Et ça, c'est l'œuvre de Chilombo. Il ne doit pas se vanter pour cela. Les Congolais doivent reconnaître que cet homme, il a brillé dans... je dirais dans des histoires qui n'ont pas de sens.
Si vous allez sur cette piste, c'est que vous ne proposez pas de perspective.
Non,
parce que c'est les citoyens lambda qui s'en plaint au jour le jour.
Bien au contraire, quand on les dit, ça veut dire que nous voulons qu'il y ait rectification.
Ouais.
Bon, je prends l'exemple du tribalisme. C'est lui, aujourd'hui, nous, on joue sur le vivre ensemble. Mais est-ce que vraiment, vous pensez, je sais que vous êtes naître, mais est-ce que vous lisez le vivre ensemble dans Chilombo? La réponse dit non. Si tu suis même les verbes qui sortent de sa bouche et les verbes qui sortent de la bouche de ses amis, je vous dis, je vais même vous dire que nos souffrances ici, ça ne lui dit absolument rien. Pour preuve, il faut prendre tout simplement les déclarations de ces hommes, entre autres le Mouya Ayala, entre autres son directeur de cabinet, entre autres ses proches, quand ils disent la guerre elle est à 2000 km là-bas, comme qui dirait que c'est pas un problème. Et bon, et donc je tiens à vous dire, chers journalistes, que nous sommes vraiment disposés à bien faire. Je vous ai dit que dans 2 semaines nous allons riposter, on lui donne encore la chance de vouloir se mettre, parce que lui-même dans son fort intérieur, il sait qu'il n'a pas de force. Partout où il a fait des recours pour vouloir avoir des soutiens ici et là, il est ridicule aujourd'hui. Mais il continue à provoquer les gens. Quand il nous provoque, nous, on va prendre le dessus sur lui. Il va crier dans la langue maternelle de sa mère. Et donc, vous avez vu même quand la dame de la MONUSCO est arrivée. Pourquoi nous, on a accepté qu'elle atterrisse à Goma? On a accepté, c'est déjà une façon de montrer que nous voulons la paix. Qu'elle vient avec ses hommes pour observer si les mesures de cessez-le-feu sont respectées. Mais dès lors que, aussitôt qu'elle est à Goma, elle-même est témoin comment Chilombo il nous pousse à la vengeance. Vous voulez quoi? Nous sommes tous des hommes, mais comme on a l'habitude de vous le dire, atajione a mwenyewe.
Merci beaucoup, Dany Bashige, Emmanuel. Responsabilité de la société civile en cette période.
Merci beaucoup. D'ailleurs, laissez-moi d'abord dire à Papa Bashige,
le cadre de l'AF 523 que la population ne voudrait plus attendre sortir dans vos bouches que vous allez encore riposter, vous allez encore faire ceci ou cela. Parce que cette population, cher cadre de l'AFC, elle est très fatiguée des hostilités.
Bien sûr, mais quand ils vous attaquent, vous voulez
vous savez même nos amis, nos réfugiés qui sont au Burundi aujourd'hui, il faut voir les difficultés qu'ils parcourent là-bas. Il faut voir nos déplaceurs internes, ici à Bukavu, les gens qui sont venus de Kabare, de Walungu, un peu partout là. Ils pensaient que quand on se déplaçait vers la vie, ils vont recouvrir un peu de la paix. Mais il faut voir aujourd'hui. Et quand on communique, on va encore riposter parce que Chilombo a fait ceci ou cela. Moi, je crois, restons, je vous prierai de rester dans le respect de la résolution 28-08. Donc, respecter les partenaires MONUSCO qui est venu ici et qui vient dans le cadre de la mise en œuvre du cessez-le-feu qui est sollicité par les Nations Unies. Ça va soulager la population. Vous savez, aujourd'hui, il y a 80% aujourd'hui de chômeurs, et je dirais d'ailleurs 90% dans la ville et un peu partout là, dans les zones touchées par la guerre. Les gens ne travaillent plus, les gens ne mangent plus, les couloirs humanitaires sont toujours fermés, les gens n'ont pas d'assistance. Et donc, c'est une guerre triple. Que la population est victime. Donc, en dehors de tout ça, on souhaiterait que nous puissions respecter les accords que Kinshasa riposte ou pas. Et si vous les respectez, la population va prendre acte. La communauté internationale va prendre acte. Et demain, parce que ni n'est au-dessus de la loi. Si vous restez bras croisés et que Kinshasa continue à bombarder, à faire ceci ou cela, nous serons les témoins, la communauté internationale sera le témoin. Et demain, chacun va répondre de sa responsabilité. Ça, c'était en rapport avec la décision, parce que nous-mêmes, nous avons lu le communiqué qui annonçait la mort du colonel Willy Ngoma, et on a vu dans les conclusions ce qui est soulevé. Et nous, quand nous lisons comme ça, on se dit finalement, où est-ce que nous allons maintenant nous réfugier? Voilà, c'est ce que nous pouvons demander. Maintenant, pour la question qui demande la responsabilité de la société civile, moi je crois que cette responsabilité nous a été accordée par l'article 5 de notre Constitution. Et désormais, personne ne va plus nous interdire d'analyser des questions politiques, de prendre des positions, de condamner telle ou l'autre, parce que la F-523, n'est-ce pas qu'aujourd'hui se réfère à l'article 64, c'est de leur droit. Et il y a aussi les gens qui croient que la société civile, la population ne peut pas se prononcer sur une ou l'autre décision prise par une partie. Mais nous pensons qu'avec l'article 5, bientôt là, on va parler politique, on va analyser politique et on va prendre des positions. Nous venons de vous dire, les amis qui sont les acteurs sociaux qui sont, que ce soit dans toutes les provinces et ceux qui sont dans le diaspora, déjà il y a déjà des perspectives. Et si je vous ai parlé là que nous on souhaiterait faire les sondages, parce que les sondages que nous allons bientôt lancer sur l'ensemble du pays, c'est un sondage d'écouter est-ce que le peuple congolais est jusque là se sent considéré, se sent à l'aise de ce qui se passe. Si la population va donner comme position, et c'est à partir de là maintenant qu'on va savoir où nous voulons aller où. Parce que nous, on a compris qu'il fallait maintenant commencer là où les belligérants ont évité de commencer. Parce que si Kinshasa voulait dialoguer avec les Rwandais, comme c'est les Rwandais qui constituent un problème pour lui, Kinshasa allait commencer à demander d'abord l'avis de la population. Si l'AFC pensait que Kinshasa, à travers Félix, c'est lui l'ennemi, que l'AFC étant un mouvement révolutionnaire, allait aussi sonder l'opinion. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire? Parce qu'aujourd'hui, avec cette vie misérable que mène le peuple congolais, je vous dis, si l'AFC était prudent au départ et impliquer les peuples congolais, peut-être tous les sites qui vous siez seraient déjà dans l'AFC et comprendre, parce que personne n'était content de la mauvaise gouvernance que subit les peuples congolais. Et les preuves en eux que les élections de 2023 ont témoigné que les peuples n'étaient pas d'accord. Tout ce que vous, même si vous voyez aujourd'hui les élites qui gardent silence sur ce qui se passe sur l'ensemble du pays, c'est parce que ces élites eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas l'émanation du peuple congolais. Ils savent pourquoi ils sont là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, aucun de ces élites ne se permet même de lancer même un message de condoléances. Tu es élite, je ne sais pas moi, on parlait de Katasoma, on tue les gens, on bombarde les gens à Rubaya, mais il y a les élites des massifs de Rubaya. Mais qui ose même de faire un message de condoléances à ce peuple congolais? C'est pourquoi nous pensons que l'AFC, au départ, normalement, il fallait expliquer aussi le peuple congolais quel est votre objectif. Vous voulez aller où pour que le peuple prenne en considération votre combat. Mais non, aujourd'hui, vous allez comprendre. Et ceux qui ont accepté aujourd'hui d'appuyer la révolution aujourd'hui, je dirais quelque part, ils sont aussi exposés parce qu'au niveau local, il y a les groupes Wazalendo, je ne sais pas moi. Maintenant, ça devient chasse à l'homme. Les Wazalendo cherchent Emmanuel parce qu'on a présumé qu'Emmanuel serait du 1-23, on les contacte. L'AFC-1-23, on ne sait pas qui coordonne quoi. Parce que c'est là où on pense notre vision. Maintenant, là, nous voulons maintenant comprendre la place du peuple congolais.
La place du peuple pour initier des actions.
Des actions.
Pour contraindre les partis à cesser cette attitude des violences et des infractions.
Aujourd'hui, si vous regardez.
Vous organisez quel type d'action, par exemple?
Les actions sont claires. Nous ne voulons pas appeler le peuple dans la rue. Nous ne voulons pas commencer à faire des actions. Nous voulons d'abord sonder le peuple congolais.
Après ces sondages, bien évidemment.
Après les sondages que nous allons mener ici. Là, maintenant on va comprendre que veut le peuple. Et c'est à partir de là maintenant que les acteurs sociaux vont prendre la question en main. Parce que l'on s'est dit, il s'agit de notre droit. Ceux qui revendiquent que tel parle aujourd'hui, c'est de leurs droits. Et ceux qui vont aussi s'approprier les combats, il s'agit bien évidemment de leurs droits aussi. Parce que ce qui se passe maintenant, Kinshasa, à 2000 km, comme on le dit souvent, personne ne sait ce qui se passe. Les dialogues traînent les pas. Parce qu'elles ne sont pas touchées directement. Ils sont touchés directement entre temps. Ils prennent leur café, leur bière, ils dansent, ils voyagent. Vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, les gens meurent à Rubaya aujourd'hui, Kinshasa commence à fêter. Parce qu'on a cité qu'un militaire de l'AFC-23 serait mort dans ces combats. Vous commencez à fêter, comme qui dirait l'AFC est sorti des zones occupées et que c'est fini la paix de retour.
Vous n'avez que pensons... réponse du berger à la bergère, avec certaines personnes évoquant la fête que l'AFC-M23 avait... initié au moment du décès du général Peter Chirimwami.
C'est ce qu'on s'est dit.
On a même rappelé... la réaction de Willy Ngoma après le décès de Peter.
C'est ça, cher expédié.
Visiblement, les deux parties, tous.
C'est ça le problème.
Les nages dans les mêmes.
C'est là où il y a le problème. Vous pouvez vous imaginer, même les gens commencent même à oublier que la mort serait l'ami fidèle de tout un chacun. Willy Ngoma, c'est son tour hier. Demain, ça sera le tour de l'autre. Ce qui nous intéresse maintenant, nous, c'est d'abord la paix. Parce que vous allez fêter la mort de Willy Ngoma. Mais vous oubliez que après,
les
populations également étaient touchées. Vous ne voyez que maintenant la seule personne à Willy Ngoma.
Comme si
vous oubliez maintenant les civils qui ont perdu le leur. C'est là où maintenant nous pensons que c'est maintenant qu'il fallait maintenant que la paix revienne dans notre pays. C'est maintenant que les belligérants allaient comprendre que l'ère de dialoguer est arrivée. Et le dialogue que nous demandons maintenant là, nous voulons maintenant, parce que comme ça traînait vers Washington et Doha au niveau de l'Union africaine, nous voudrions maintenant que les belligérants rentrent vers le peuple congolais, demander le peuple que veut le peuple autour de ce qui se passe. Nous pensons maintenant qu'est-ce qu'il faut pour que les gens trouvent la paix dans notre pays. Ce qui se passe actuellement, ça devient entre... les combats des individus avec les réseaux sociaux. Oh, vous allez maintenant voir, nous allons riposter, nous allons les corriger. Oh, ils sont comme on vous accuse souvent. Actuellement, ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Quand c'est les Sarambwe qui avancent, on dit que on a corrigé Kinshasa. Mais que ça, quand c'est vous qui
Kinshasa qui cherche à reprendre
certaines
zones.
Alors moi, je me demande. Entre Kinshasa et l'AFC, qui finalement est du côté du peuple congolais?
Voilà, donc Joseph, on sent qu'il y a une obligation pour aussi le peuple d'exprimer sa prétention et de donner sa position pour contraindre les partis à bien sûr, à se mettre sur une même table ou abandonner les hostilités.
En tout cas, je suis convaincu que le peuple congolais doit s'exprimer. Il doit porter sa voix. Le seul problème, et c'est pour cela que je n'aime pas une fois encore le politicien actuel que le pays a, c'est que le peuple congolais de Kinshasa, il est enfermé dans une bulle politicienne de mensonges permanents. En tout cas, c'est ce que j'entends dire de ceux qui sont là. Et ils disent que on a comme l'impression que mettre le pouvoir, la pression sur le président Félix, c'est nécessairement être du côté adverse. Et pourtant, ce n'est pas ça.
Du côté de l'AFC M23.
On peut mettre la pression auprès de Félix, pas parce qu'on est du côté de l'AFC, mais juste parce qu'on veut la paix.
Ouais.
On veut que nos frères qui sont en zone occupée, et nous, le pays, se réunissent, que l'on entende, par exemple, ce que dit l'AFC M23, ouais. Et qui serait censé, qui serait logique qu'on le comprenne, ouais. Et qu'on avance. Et là, on va revenir sur le pacte social que présente la CENCO. Ouais. Ça sera évident. Ouais. C'est pour ça que je dis, s'il y a des évidences qui peuvent être constaté par tout le monde et on le suit. Pourquoi on ne le suit pas? Donc la population congolaise doit se rendre compte. Il y a des gens à Kinshasa et ailleurs qui vont nous écouter, nous leur supplions de mettre la pression sur toutes les parties prenantes. Et l'AFC 123 et le gouvernement congolais, partout où on est, pour qu'ils comprennent qu'on a besoin de paix. De paix. Nous, on n'est pas là pour dire que l'un est mauvais, l'autre est mauvais, je sais pas. À la justice et à Dieu un jour de dire ça aux gens. Nous, ce dont on a besoin est que vous nous garantissiez que vous n'allez pas tout vendre aux étrangers et nous prendre tous les moyens de survie parce que vous, entre vous, mon appel dans mon échange et ce jeu énigme, et vous n'allez pas vous aussi nous mettre dans une situation où on n'a pas d'avenir, tout simplement parce que vous voulez démontrer à Félix ceci ou cela. Je sais qu'il y a des raisons profondes, légitimes, pour les uns et les autres. Et c'est possible qu'on les entende et qu'on se mette d'accord sur ça. Et la population, puisque nous, population, on le sait, on vous demande d'être, comme Emmanuel l'a dit, faites preuve de bonne volonté, dites voilà ce que nous avions au fond comme revendication, et on est prêt à accepter ça, et on n'est pas prêt à accepter ça. Regardons Kinshasa et disons à Kinshasa que si vous ne nous mettez pas d'accord pour qu'on avance, vous aussi, vous êtes notre ennemi. Que les choses soient dites clairement. Vous nous dites cause profonde. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas cette cause profonde et de quoi il s'agit. Et je pense que c'est ça la responsabilité de la population. Connaître tout ça et mettre la pression pour que on ait la paix. Sinon, ces gens, ils sont prêts à nous vendre apparemment et à vendre tout ce qu'ils ont juste pour avoir je ne sais pas quoi. Et tout ça, le monde nous regarde, ils se moquent de nous, ils nous narguent parce que nous-mêmes, on ne sait pas regarder notre responsabilité en face, prendre le courage de l'affronter et résoudre. La population, en tout cas, c'est une conscientisation. Nous, comme nous sommes en train de le faire ici, Emmanuel comme il le fait, les autres, je sais que le mouvement 23 a une branche civile nécessairement qui s'approche de ce que la population pense, organisez-la si elle n'est pas là, mettons-nous d'accord sur certaines choses, faisons des mémorandums, que les gens qui sont à Kinshasa fassent aussi la même chose, qu'ils comprennent qu'on peut mettre la pression au gouvernement congolais sans pour autant nécessairement être d'une partie ou d'une autre.
Vous avez parlé d'une responsabilité africaine qui devrait être activée plutôt que d'aller ailleurs pour nous amener la paix. Il faut dire qu'ailleurs, ça chauffe également, c'est par là que nous terminons l'émission de ce jour. Le président américain Donald Trump a donc appelé samedi 28 février les Iraniens à s'emparer du pouvoir à l'occasion d'opérations militaires majeures qu'il a ordonnées contre l'Iran et dont il a d'ores et déjà prévenu qu'elle pourrait occasionner des pertes américaines. Le président américain Donald Trump, qui passe le week-end en Floride, a annoncé par un message vidéo diffusé d'abord sur son réseau Truth Social le début de l'opération Fureur épique. Le nom a été dévoilé par le Pentagone. Il a parlé d'opérations militaires majeures et massives rendues nécessaires par des menaces qu'il a décrites comme imminentes sans mentionner du tout une autorisation ou consultation du Congrès américain qui dispose selon la Constitution du pouvoir de déclarer la guerre. Coiffé d'une casquette blanche ciblée USA en costume et chemise, il a esquissé les objectifs de l'opération. Je cite, nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie de missiles. Nous allons réduire à néant leur marine, a-t-il ajouté derrière un pupitre portant le sceau présidentiel américain avec en fond des drapeaux et un rideau de couleur bleu marine.
Je cite à nouveau, notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes venues du régime iranien, a-t-il justifié. La liberté à portée de main, le dirigeant républicain a de manière explicite appelé à un renversement des autorités iraniennes. L'heure de votre liberté à portée de main, a-t-il lancé au peuple iranien. Lorsque nous aurons fini, emparez-vous du pouvoir, a-t-il encore dit en affirmant, ces messages sera probablement votre seule chance en plusieurs générations. Donald Trump les a aussi avertis que l'opération en cours serait de grande ampleur. Restez à l'abri, ne quittez pas vos maisons, il est très dangereux de sortir, des bombes vont tomber partout. Le chef de l'État s'est aussi adressé à son propre pays. Du courage, des courageux héros américains pourraient laisser leur vie et nous pourrions avoir des pertes. Donald Trump se présente volontiers en pacificateur et a souvent critiqué les guerres lancées par les États-Unis dans le passé. Il a reproché en particulier à son prédécesseur démocrate Joe Biden d'être responsable de la mort des militaires américains dans un attentat à l'aéroport de Kaboul lors du retrait chaotique d'Afghanistan en 2021, c'était à l'été. Ils n'auront jamais d'armes nucléaires, a-t-il insisté. Le républicain a toutefois lancé lui-même plusieurs opérations militaires importantes depuis son retour au pouvoir en janvier 2025. Par exemple, en frappant des sites nucléaires iraniens en juin ou encore en faisant capturer les dirigeants vénézuéliens Nicolas Maduro début janvier, il n'a jamais sollicité l'aval du Parlement, ce qui lui a valu des féroces critiques de l'opposition démocrate et quelques protestations pour l'instant encore isolées dans son camp, le parti républicain. Ils n'auront jamais d'armes nucléaires, a encore dit Trump ce samedi à propos des dirigeants iraniens assurant que Téhéran avait rejeté toutes les occasions de renoncer à la bombe atomique dans les discussions menées avec les États-Unis. Selon lui, l'Iran tentait de reconstruire son programme nucléaire après les frappes de juin dernier et voulait développer des missiles à longue portée qui auraient été à terme capables d'atteindre le territoire américain. Aux membres de gardiens de la révolution islamique, aux forces armées, à toute la police, je dis aujourd'hui, c'est toujours Donald Trump, et vous devez déposer les armes et avoir une immunité totale ou, dans le cas contraire, faire face à une mort certaine, a menacé le milliardaire de 79 ans. Et il faut le dire, dans la foulée, la télévision d'État iranienne confirme la mort du guide suprême Ali Khamenei. Les États-Unis et Israël ont annoncé hier samedi, c'était dans la soirée, avoir lancé des frappes sur l'Iran appelant les Iraniens à prendre le pouvoir. Ils ont confirmé, l'Iran a riposté en lançant des missiles contre Israël et des nombreuses villes du Moyen-Orient, notamment celles abritant des bases américaines. Plusieurs explosions ont notamment eu lieu à Téhéran, à Doha, Dubaï, Abu Dhabi, au Koweït, à Bahreïn, je signale. Plusieurs compatriotes congolais, même ceux du Sud Kivu, restent terrés chez eux à Dubaï où le Burj Al Khalifa a été épargné de si peu. Donc il y a eu un drone qui a visé le Burj Al Khalifa mais qui a été maintenu par le dispositif défense patriote mis en place par les États-Unis sur ces différents pays, notamment le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis. L'on signale juste un incendie qui a découlé de cette explosion. Il y a eu l'aéroport d'Abu Dhabi qui a été aussi touché par les explosifs. Donald Trump a annoncé que Ali Khamenei avait été tué, le guide suprême. C'est que les Américains, ou disons les médias officiels iraniens, ont confirmé quelques heures plus tard. Et il faut le dire, les gardiens de la révolution promettent l'offensive la plus féroce de l'histoire contre Israël et les États-Unis. Dans un message posté sur Telegram à la suite de la mort du guide suprême Ali Khamenei, les gardiens de la révolution iranienne affirment que la plus féroce opération offensive de l'histoire des forces armées de la République islamique d'Iran va débuter d'un moment à l'autre contre les territoires occupés et les bases terroristes américaines, ont-ils fait savoir. Les frappes interviennent alors que les États-Unis et l'Iran étaient en pleine négociation autour du programme nucléaire. Trois hauts responsables iraniens assurant la transition en Iran après la mort du guide suprême Ali Khamenei a annoncé l'un des conseillers de ces derniers, Mohammad Mokber, cité par la télévision d'État. Ce triumvirat sera composé du président Massoud, du chef du pouvoir judiciaire Modeni Ejay et d'un juriste du conseil des gardiens de la constitution. Voilà donc la situation du monde. Déjà, à partir d'hier samedi à la matinée, aux petites heures de la matinée, Joseph, quelle analyse faire de ce contexte? Il y a le programme nucléaire qui a été développé par Téhéran. Les États-Unis veulent y mettre un terme définitivement et renverser le régime, disons le pouvoir, à la tête de l'Iran. Et l'Iran qui riposte en attaquant tous les intérêts militaires américains dans la zone, notamment à Israël, notamment au Bahreïn, notamment au Koweït, au Qatar, mais également aux Émirats Arabes Unis, en touchant directement une ville stratégique qui attirait les intérêts sud-kivoussiens, les intérêts kivoussiens, les intérêts congolais, Dubaï. Plusieurs opérateurs économiques restent coincés chez eux à la maison, même jusqu'à maintenant où ça tire des partout. Heureusement que ce sont des pays qui sont protégés par un dispositif militaire de protection patriote américain, mais il faut signaler que les pertes seraient énormes si de tels dispositifs n'étaient pas adoptés avant. Mais comment vous analysez cette attitude des États-Unis qui se comportent aujourd'hui comme les maîtres du monde ou les gardiens du monde?
Bon, les Américains se sont toujours comportés ainsi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une situation de transition de phase du système mondial, du système monde, comme on l'appelle. Et cette phase de transition est une phase de crise où maintenant c'est ce rôle-là qu'on veut jouer de gardien de l'ordre mondial ou de superpuissance, comme le système monde est en crise avec un transfert de puissance du monde occidental vers le monde asiatique, l'Asie, la zone l'Asie du Sud-Ouest est la zone qui pourrait concentrer la plus grande croissance mondiale. La Chine est en train de dépasser les États-Unis sur le plan technologique sur plusieurs points. La superpuissance le monde de demain, en tout cas, serait celui asiatique. Et ces transferts de puissance là-bas est une zone où ceux qui étaient plus forts considèrent qu'ils seront dépassés. C'est le piège des Thucydides, d'une puissance montante et un hégémon descendant. À un moment, ils se mettent en guerre. Maintenant, comme ils ne se mettent pas en guerre d'abord entre eux face à face, ils se mettent en guerre en zone intermédiaire. Et les zones intermédiaires et périphériques sont par exemple les nôtres, nous. Les États-Unis cherchent à sécuriser leur couloir d'accès aux ressources stratégiques et maintenant ils viennent les chercher au Congo. On sait tous, c'est pour cela que je ne souhaite pas qu'on réduise cette guerre à des malentendus ici et là. On sait tous que dans la guerre qui se passe au Congo, il y a une confrontation entre la Chine, les intérêts chinois et les intérêts américains. On le sait. À un moment, on sait que les Américains étaient même prêts à laisser les gens aller jusqu'à Kinshasa pour faciliter la renégociation de certains contrats chinois. Et nous savons aussi, même si on ne nous le dit pas, que Félix, s'il est parti là-bas, c'est parce qu'il a été conseillé par certains que pour qu'il garde
c'est que
quelque
chose. C'est
la source
du problème, c'est là-bas.
C'est parmi les sources du problème. Et nous rappelons aussi que l'Union européenne, qui voulait aussi accéder à ces ressources, on a vu comment est-ce qu'elle a été hypocrite sur beaucoup de temps sur cette question, qui parle de paix sans donner la paix, ainsi de suite. C'est vrai, des questions internes existent. Là, on le sait qu'il y a des questions internes, mais voilà. Si je lis tout ça, c'est pas pour rien. Vous me demandez Iran, je vous dis Congo. C'est parce qu'une fois encore, j'ai dit que j'étais en colère contre notre classe politique et les Africains. Parce qu'ils ne comprennent pas le sens de l'histoire. Les Américains.
Revenons sur ce sens.
C'est le sens de l'histoire. Les Américains, c'est ce que je cherche à dire. Ils sont avec l'Iran en train de négocier un accord sur le nucléaire en 2015. Ils trouvent un accord sous Barack Obama.
Justement.
L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie atomique, confirme l'année passée que l'Iran avait respecté l'accord et qu'il n'enrichissait pas l'uranium jusqu'à
à la
bombe nucléaire. Mais Tulsi, la directrice actuelle du renseignement américain, elle-même confirme que l'Iran n'était pas sur cette zone là-bas. Mais qu'est-ce que Trump a fait de cet accord? Il a jeté en cacahuète à la demande de qui? Des Israéliens qui voulaient quoi? Détruire toute la puissance américaine, toute la puissance iranienne. Parce que, pourquoi? Parce que l'Iran constitue une menace à la construction du Grand Israël. Du Grand Israël, ces projets hégémoniques là-bas qu'ils ont, qui doivent détruire certains pays du Nil à l'Euphrate. Vous voyez, ça c'est par rapport aux Israéliens. Et par rapport aux Américains, je venais de parler de la Chine, de la zone de croissance qui va vers l'Asie. Ils veulent quoi? S'installer au Moyen-Orient de façon, parce que c'est une zone très riche en ressources énergétiques en particulier. Donc, ces gens là-bas avec qui on va négocier, ils ne respectent absolument rien. Vous parlez du droit international, ils se foutent du droit international. Vous parlez des intérêts des uns et des autres, ils ne s'y intéressent absolument pas. C'est pour cela, tout de suite, j'ai dit, vous voulez que nous allions vers nous lier à des étrangers quand nous voyons ce qu'ils font à l'Iran et ce qui arrive à l'Iran. On ne se dit pas que demain, nous aussi, nous pouvons, les mêmes choses pour lesquelles on s'est liés avec eux, ils peuvent se retourner contre nous et nous détruire.
Et quelles sont les répercussions envisageables d'abord dans le Golfe, les prochains jours et les prochaines heures?
En tout cas, si l'Iran n'arrive pas à avoir des ressources technologiques particulières pour étant venant de la Russie et de la Chine. C'est une guerre d'attrition sur le long temps. C'est vrai, il y aura des pertes de part et d'autre, mais sur le long temps, on sait que... Voilà, quand vous n'avez que le marteau dans la main, vous pensez que tout est clou. Donc les Américains, ils ont leur puissance, leur manière de faire la guerre, c'est d'être au-dessus et ils misent sur le temps pour écraser leur ennemi. Donc l'Iran pourrait perdre. Mais c'est une nation qui est très... Donc, voilà, il s'appuie sur sa dignité et n'acceptera pas de perdre elle seule. Elle ne va pas perdre elle seule.
En attaquant toute la zone sous contrôle des États-Unis, elle veut créer la pagaille.
Créer la pagaille partout. Et attention, il ne faut pas, c'est pas gagné d'avance. Parce que pour qu'on fragilise suffisamment à long terme l'Iran, il faut qu'il soit divisé comme nous. Vous voyez un peu comme nous on est. Et eux, ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. C'est une nation millénaire. C'est une civilisation millénaire.
Il y a Trump qui a demandé à la population de descendre dans la rue après que les opérations seront terminées. J'ai vu à la télévision d'État des journalistes qui étaient en train de plaider en annonçant la mort du guide.
C'est une nation millénaire. Ils se sont préparés à cette guerre des années et des années.
Le guide lui-même a préparé sa succession.
Sa succession. Même si on tue un guide aujourd'hui, un autre naîtra. Même si on tue des carnets.
Il n'y a pas risque de troisième guerre mondiale.
Je venais de dire que si l'Iran, si la Russie et la Chine ne viennent pas en secours, l'Iran perdra à long terme, mais il n'y aura pas un embrasement général. Mais je ne pense pas aussi tout de suite que ça va aller vers là, parce qu'eux, ils ont un accord de soutien mutuel, et ça, il faut lever cet équivoque-là au point de la population. Beaucoup disent pourquoi la Russie et la Chine n'interviennent pas. Ils ont un accord de soutien, mais pas un accord de défense. Ceux qui ont un accord de défense mutuelle, c'est la Chine, la Russie et la Corée du Nord, mais pas avec l'Iran. Mais bon, s'ils décident qu'ils vont en découdre en ce moment, là-bas, c'est la troisième guerre mondiale.
Voilà, donc, compassion à tous nos compatriotes qui sont, n'est-ce pas, à Dani, qui sont à Dubaï. Nous espérons qu'ils seront préservés, les opérateurs économiques. Nous en connaissons beaucoup qui se retrouvent maintenant à Dubaï. Ils sont obligés de rester chez eux, à la maison. C'est vrai, chez eux, le ciel est protégé différemment de Roubaix et Aoul. Les drones peuvent atteindre tout le monde. Différemment de Bukavu, les drones peuvent nous retrouver même dans ce studio de Radio Mendeléo.
Différemment d'Ouvira où les missiles ont atteint les gens.
Justement, il faut le préciser. Ouais. Et sur tout l'ensemble de la plaine de la Rouzizi. Voilà, donc nous compatissons avec nos compatriotes, espérant que la situation sera normale dans les heures qui viennent. Dani, merci beaucoup pour votre participation.
Oui, bon, c'est aussi une guerre de puissance, comme vous l'avez si bien dit. Bon, une guerre de puissance, mais qui s'approvisionne en République démocratique du Congo, ce qui fait que parmi nos objectifs, d'ailleurs le point de notre lutte, il y a aussi la restauration de la dignité du Congolais et du Congo. Nous ne pouvons pas accepter de continuer à vivre avec un président qui accepte que nos mamans, que nos enfants, que les personnes de troisième âge vivent dans le forêt comme ça, que les bombardements continuent partout et chaque jour. Donc nous voudrions que les choses s'arrêtent là. Il s'en est trop. On va se débarrasser de Chilombo si il n'arrive pas à comprendre vite. Et s'il arrive à comprendre qu'on négocie, on est prêt à tout. Je vous remercie.
Et il y a une recommandation qui vous est adressée également au-delà du pouvoir de Kinshasa. Le peuple, par le biais de certains de ses représentants dans ce studio, bon, membres de la communauté, vous demande aussi de taire les bruits des armes pour faciliter la paix ou la réplique de la paix.
Une fois piégé,
tout à fait expédié, comme l'a si bien dit Emmanuel Dengueya. Il a dit vrai et tout ce qu'il a dit, heureusement, c'est ce que nous appliquons. Essayons un peu de poser des questions aux gens ici et là. Les gens vont vous dire que la sécurité se porte plus ou moins bien par rapport à l'époque de Chilombo, ici. Et nous, on n'a pas besoin de tirer sur les gens.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Nous souhaitons franchement, nous souhaitons la paix.
Merci beaucoup, si M. Chilombo le fait bien. Mais c'est que le docteur Baraka a essayé de brosser sur ce qui se passe maintenant dans le monde. Ça doit nous servir, nous, les Congolais,
je dirais, ça doit, de, comment dire, une leçon, il faut appeler ça
servir d'exemple,
pédagogique, oui. D'exemple. Parce que si maintenant la guerre est dans le camp du Paris, comment les enfants vont se comporter. Mmh. Donc c'est pour dire que mon problème...
Et l'enfant là, c'est-il l'homme?
Donc maintenant là, on ne peut pas réactiver la piste de Doha.
Oui,
difficile d'atteindre le Qatar.
C'est possible maintenant que nos problèmes soient résolus par nous-mêmes.
À l'interne, Jean-Claude
Dacier. C'est là où on se dit même... Même le couple parrain ne résolut pas tout pour les, ses enfants. Il y a le problème que le couple doit régler avant que le parrain n'intervienne. Maintenant, le parrain est touché. Que va devenir nous les enfants?
À lui de tirer les leçons.
Moi je crois, revenons en Afrique, revenons chez Senko SCC, revenons au niveau de l'Union africaine, nous allons résoudre ces problèmes.
Merci beaucoup.
Ce n'est pas difficile.
Exactement 10h35, c'est par ici que nous mettons un terme à l'émission Paix et Développement de ce dimanche 1er mars 2026, une émission qui a consacré un temps nécessaire à l'environnement avec le mois vert organisé dans la ville de Bukavu. Et en second chapitre, nous avons évoqué la violation du cessez-le-feu avec des acteurs sociopolitiques dans ce studio. Dany Bassig, il est cadre de la FCM 23, Emmanuel Benguea, il est de la société civile du Sud Kivu, et enfin Joseph Baraka, il est directeur de l'Institut Patrice Emery Lumumba. Jean-Claude Dag assuré la mise en ordre devant ce micro pour la présentation. Expédie Kialou, excellent dimanche chez vous, bon mois de mars 2026 à toutes et à tous.
Bye bye. Merci. See you next week.